Bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 12e édition du Festival Raison d'Agir. C'est pour cette 12e édition, on a souhaité questionner la question, c'est bien. On peut s'arrêter là. On a souhaité travailler la question de la consommation, et notamment en problématisant un peu autour de l'extension de la consommation, de la marchandisation à tout un ensemble d'activités humaines, mais aussi de biens communs, de biens naturels. Et en l'occurrence, ce soir, il va s'agir de cette question de l'appropriation par des firmes privées de ces biens communs que sont l'eau, la nature ou la culture. Donc nous sommes très heureux pour cette soirée d'accueillir Geneviève Azan et Gilles Kerr sur cette question. Donc c'est le regard ce soir de deux économistes sur cette question. Après une journée où on a mélangé, fait rencontrer à la fois le regard de chercheurs, mais le regard aussi de militants et de citoyens, c'est un peu la raison d'être, de raison d'agir, de se faire rencontrer des mondes qui parfois vivent chacun dans leur univers. Et on a la raison d'être, de raison d'agir, c'est d'être ce lieu de rencontre de différents regards et de différentes expériences. Donc je laisse tout de suite la parole à Gilles Kerr, donc, qui est professeur d'économie à l'Université de Poitiers. Et à Geneviève Azan, et je vous remercie beaucoup d'être présent ce soir.
Merci. Donc le thème de ce soir, c'est capitalisme, gaspillage consumériste et érosion du commun. Il va être beaucoup question de capitalisme et de consommation, et peut-être un petit peu moins de commun, sauf sur la fin, mais c'est un petit peu volontaire. Alors, en guise d'introduction, donc je suis économiste. Qu'est-ce qu'un économiste peut dire en 5 minutes sur un tel sujet, capitalisme, consumérisme et érosion du commun? Juste 3 choses. Première chose, donner des chiffres, parce qu'un économiste, c'est ce qu'il sait faire, c'est donner des statistiques. Quand on regarde la consommation des Français, l'indicateur de consommation des ménages depuis 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on annule les effets de l'inflation, qu'on raisonne par habitant, en gros, on s'aperçoit que depuis la Seconde Guerre mondiale, un Français moyen aujourd'hui consomme 5 fois plus qu'un Français moyen de 1945. Le niveau de consommation, donc en annulant les effets de l'inflation, en raisonnant par habitant, on consomme 5 fois plus que ce que consommait un Français moyen de 1945. Je mets de côté évidemment toutes les inégalités, ce sont pour les moyennes. Toujours dans ces chiffres, deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que dans cette multiplication par 5, il y a 3 grandes phases. Il y a une première phase, les fameuses 30 glorieuses, puis ensuite, ce que certains ont appelé les fameuses 30 piteuses, mais les 30 piteuses, en gros, jusqu'en 2008, la consommation, elle a continué à progresser. Simplement, elle a progressé 2 fois moins vite que ce qu'elle progressait dans la période antérieure. Mais il y a une troisième phase qui est beaucoup plus récente, depuis 2008, et là, depuis 2008, il y a quand même une nouveauté en France, c'est que globalement, depuis 2008, la consommation, elle a régressé. Et ça, c'est historique, c'est-à-dire qu'on est actuellement à moins 3% consommation par habitant par rapport à ce qu'elle était en 2008, et ça c'est une vraie rupture historique depuis la Seconde Guerre mondiale, je ne demande pas au 19e siècle, évidemment. C'est une rupture historique, autre manière de dire les choses, depuis les 8 ans là, qui se sont écoulés depuis 2008, on a eu 5 années de croissance négative de consommation pour 3 années positives, alors que depuis 1945 on n'avait connu que 2 années de croissance négative de consommation par habitant. Donc on est vraiment sur, soit alors on peut le voir et on verra, de manière conjoncturelle, on peut dire voilà, on est vraiment dans une rupture en matière de consommation essentielle, soit peut-être une rupture structurelle, mais qui est évidemment à confirmer quand on raisonne comme ça sur des décennies. C'est un petit peu court de raisonner sur simplement 8 ans. Deuxième chiffre, la consommation des ménages des Français aujourd'hui, on est à le quart de la consommation qui est en fait socialisée. le quart de la dépense des ménages, elle provient en fait d'une action publique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement la santé, l'éducation, une partie de l'hébergement, enfin de l'action sociale, que ce soit l'hébergement des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. Mais il y a quand même le quart de la consommation qui est socialisée, qui n'est pas une consommation individualisée. Et là, structurellement, c'est une augmentation qui est continue depuis justement l'origine des chiffres de la comptabilité nationale, depuis 1945. On a une croissance de la consommation socialisée et ça continue, y compris depuis 2008. Donc, résumé des chiffres de cette première idée, hein, on a quelque chose qui est assez nouveau, qui se passe depuis quelques années en matière de consommation globale. Et deuxième chose, ben le rapport entre consommation individualisée et consommation socialisée, lui, par contre, continue à rester le même, voire la consommation socialisée a continué à progresser. Deuxième chose que peut dire un économiste en 5 minutes, ouais, j'essaie de tenir 5 minutes. Deuxième chose, c'est de faire des grandes théories. Alors, en 2 minutes, c'est court. Mais globalement, quand on regarde les grands courants de la science économique, on s'aperçoit qu'évidemment, ils sont en opposition idéologique sur le capitalisme. Mais concernant la vision de la consommation, ils ne sont pas si en opposition que ça. C'est-à-dire, si vous prenez le courant libéral des néoclassiques, il y a deux acteurs fondamentaux chez les néoclassiques, c'est les producteurs et les consommateurs, mais l'acteur fondamental, c'est le consommateur. Même si, évidemment, ce qui est derrière, c'est le profit des actionnaires qui les intéresse. Le personnage central, du moins dans le discours, c'est le consommateur. C'est, pour ceux qui ont fait un peu de microéconomie, la maximisation de l'utilité des consommateurs. Le consommateur est souverain. Et tout est fait au nom du consommateur et de la croissance de la consommation. Côté keynésien, c'est la même chose. Simplement, on est sur un angle macroéconomique. On est sur l'insuffisance de la consommation, de la demande globale. Il faut soutenir la consommation. Et la lutte contre le chômage impose une croissance de la consommation. Donc là encore, il y a une valorisation de la consommation. Côté troisième courant, c'est un petit peu plus compliqué chez les marxistes. Il faudrait distinguer Marx, les marxistes orthodoxes, les marxistes hétérodoxes, etc. Mais globalement, quand même, on peut dire qu'à travers le productivisme, à travers le matérialisme historique, il y a quand même plutôt une valorisation de la consommation. Je mets ça plus sous réserve que par rapport aux néoclassiques ou aux keynésiens, mais à travers notamment, bah, évidemment, toute la critique de l'aliénation ou la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange. Donc en gros, les trois courants dominants ont quand même une vision où le toujours plus est quand même, en matière de consommation, du toujours mieux, et où c'est toujours plus de bonheur pour les ménages. Pour trouver des critiques de la consommation chez les économistes, il faut aller chercher un petit peu loin, et chez des gens qui sont un petit peu marginaux. Alors je vous parlerai vendredi matin, pour ceux qui seront là, de Charles Gide et des coopératives de consommation. Charles Gide, qui était un Français et un professeur d'économie, et qui a essayé de réfléchir sur des formules de production, de distribution et de consommation un petit peu différentes. Après, il faut aller chercher chez des non-économistes, Ivan Illich, sur la notion de contre-productivité. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ou à propos des communs, avec Elinor Ostrom, autour de la gouvernance des biens communs. Elinor Ostrom, qui a, même si elle n'était pas économiste, si elle était politiste, qui a eu quand même le prix Nobel d'économie. Donc, c'est un petit peu... Et Ivan Illich n'était pas du tout économiste, hein, c'est un philosophe. Mais la notion de contre-productivité, c'est renverser le calcul microéconomique néoclassique dans le sens de, justement, une critique de la croissance économique. Donc, du côté des grands discours des économistes, ou du moins des courants économiques dominants, il n'y a pas beaucoup de critiques de la consommation, y compris jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous regardez le panel des candidats à la présidentielle, il y en a peu ou pas du tout qui vont avoir une critique très forte de la croissance de la consommation. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que finalement, la troisième chose que peut dire un économiste, c'est dire que, en fait, les économistes, ils n'ont peut-être pas grand-chose à dire de critique parce qu'ils ne voient pas où est le problème. Et en ce moment, avec ce qui se passe en Guyane, je voudrais rappeler quelque chose qui était extrêmement intéressant. C'est ce qui s'est passé en Guadeloupe en 2009. Et notamment, un ensemble d'intellectuels guadeloupéens qui a écrit le manifeste pour les produits de haute nécessité. C'était en février 2009. Et je vous engage vraiment à aller trouver sur Internet ce manifeste, hein, qui faisait de mémoire 3-4 pages, qui était absolument remarquable à tous les niveaux. Et qui est vraiment, à mon avis, la bonne façon d'aborder justement le problème qui va nous occuper ce soir. Alors, je me permets juste de vous lire un passage, qui est le suivant dans le manifeste. « Derrière le prosaïque du pouvoir d'achat ou du panier de la ménagère, se profile l'essentiel qui nous manque et qui donne du sens à l'existence, à savoir le poétique. Toute vie humaine un peu équilibrée s'articule entre d'un côté les nécessités immédiates du boire, survivre, manger, en clair le prosaïque, et de l'autre, l'aspiration à un épanouissement de soi, là où la nourriture est de dignité, d'honneur, de musique, de chant, de sport, de danse, de lecture, de philosophie, de spiritualité, d'amour, de temps libre affecté à l'accomplissement du grand désir intime, en clair le poétique. » Et ce que dit très bien cette citation, c'est que ce qui compte, en fait, ce n'est pas la consommation qui apparaît dans la comptabilité nationale, elle est nécessaire à la vie, c'est le boire, survivre, manger, c'est indispensable. Mais, et donc elle est en effet nécessaire, il faut réfléchir à la bonne répartition de cette consommation matérielle. Mais ce que dit très bien le texte, c'est que le plus important, il est ailleurs, il est dans le non monétaire, dans le temps libre, dans l'émancipation, et que ça, c'est pas du tout comptabilisé par les économistes. Et donc, la question, à mon avis, ce soir, c'est justement comment on peut réfléchir à une société de prospérité sans croissance, comment on peut réfléchir à une consommation qui ne soit pas justement dans la logique des économistes, des courants économiques dominants, qui soit toujours plus, c'est toujours mieux. Et donc, c'est ce que va faire Geneviève. Simplement, quelques mots sur Geneviève Azam. Alors, j'espère que je ne dirai pas de bêtises, tu me corrigeras tout à l'heure si je dis des bêtises. Agrégée de sciences sociales, enseignante chercheuse à l'université de Toulouse 2. Ce que j'ai vu, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que tu dirigeais un axe de recherche qui s'intitulait « Anthropologie de l'économie ». Mais je pense qu'il va en être un peu question aussi ce soir. Que ta thèse portait sur l'économie sociale, à une époque où moi, je ne m'intéressais pas encore au sujet. Donc de l'économie sociale au tiers secteur, les théories économiques à l'épreuve de la coordination marchande, à une époque où l'économie sociale, c'est-à-dire, n'était pas encore à la mode comme aujourd'hui. Par ailleurs, tu es toujours membre du conseil scientifique d'ATTAC et tu es ancienne vice-présidente d'ATTAC et ancienne porte-parole d'ATTAC France. C'est ça. Tu es militante écologiste alternative du côté de Toulouse depuis de nombreuses années. Et dans tes autres activités également, tu publies régulièrement des chroniques dans l'hebdomadaire Politis et tu es également au comité scientifique de la revue MOS. Alors dans tes derniers ouvrages, je vais juste citer les titres parce que je pense que les titres sont extrêmement importants et qu'ils illustrent ce qui va être dit ensuite. 2010, le temps du monde fini vers l'après-capitalisme. 2012, alors là c'est un ouvrage collectif, alter gouvernement. 2015, oser rester humain, les impasses de la toute-puissance. Et 2017, Simone Veil, l'expérience de la nécessité. Donc Geneviève, je te propose de prendre la parole.
Merci. Donc je tiens juste à parler. Merci Gilles pour cette présentation. Merci pour cette invitation. Alors, il est vrai que le titre de la commande, c'est capitalisme, gaspillage consumériste et les communs. Donc, j'ai dû faire des choix. Parce qu'il était impensable de pouvoir traiter tous ces sujets. Et à la lecture du programme, comme je devais aussi faire une conférence introductive, j'ai beaucoup plus centré sur la consommation que sur la privatisation des communs de la nature, qui est un de mes sujets de prédilection pourtant, mais j'ai plutôt axé sur la consommation. Alors, je voudrais dire préalablement à la conférence, c'est que j'ai eu quelques difficultés à trouver l'axe majeur pour ce sujet. Tant de choses ont été dites déjà sur la consommation, sur le consumérisme que nous déplorons tous les jours. Je crois que c'est quelque chose qui est passé aujourd'hui dans les consciences, dans les pratiques sociales. Donc comment situer cette conférence de ce soir? Alors je pense que la singularité de ce sujet, puis ça fait une quarantaine d'années qu'il y a une critique de la société de consommation, j'y reviendrai bien entendu, j'en parlerai, mais pourquoi ce sujet aujourd'hui finalement? Et je crois qu'il est référé véritablement à la singularité de notre époque. Il est vraisemblable que nous vivons aujourd'hui pas seulement une crise, mais un véritable effondrement de nos sociétés. Bon, ce n'est pas gai de dire ça, mais il vaut mieux être lucide que se raconter des comptines, hein, si on veut trouver les armes pour tenter de sortir du pas dans lequel nous sommes. Donc un véritable effondrement, pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce qu'une crise, c'est quelque chose qui est assez bref. Cela fait 40 ans que nous sommes en crise. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la terminologie. Une crise, donc, c'est quelque chose qui, c'est un passage d'un état qui était relativement équilibré. Il y a une situation de crise et il y a une sortie de crise à l'issue de laquelle on retrouve un certain équilibre. Eh bien, nous savons aujourd'hui que nous ne retrouverons pas cet équilibre que nous avions et qui, en particulier, était l'équilibre ou le déséquilibre des 30 glorieuses, c'est-à-dire de ce moment très fort d'affirmation du consumérisme et de ce qu'on a appelé la société de consommation. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant des déséquilibres écologiques majeurs qui ne sont pas conjoncturels, qui touchent les conditions de possibilité des sociétés humaines sur la Terre. Je pense au climat, je pense à la biodiversité, à la destruction de la biodiversité, ce sont des phénomènes qui sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière sur le climat. On peut revenir en arrière sur des lois sociales que nous avons construites. On peut déconstruire ou tenter de déconstruire des lois. En revanche, on ne pourra pas déconstruire aujourd'hui le changement climatique. Donc c'est irréversible sur la biodiversité, on ne pourra pas reproduire la biodiversité qui est détruite, même s'il y a des illusions technicistes qui laisseraient penser qu'on va pouvoir complètement retrouver un climat antérieur et refaire les milieux écologiques qui ont été détruits. Et donc, c'est irréversible et c'est non négociable. On ne peut pas s'asseoir autour d'une table en disant maintenant on veut arrêter le réchauffement climatique. Alors, on ne peut pas l'arrêter, on peut le réduire. Il faut le réduire. On peut réduire la disparition de la biodiversité. Il faut. Et on peut surtout décider des nouvelles façons de s'organiser dans des conditions de vie qui seront nouvelles de toute façon. Hein, le climat, par exemple, hein, modifie considérablement nos conditions de production. Je pense en particulier à l'agriculture, à l'alimentation, etc. Donc nous devons aussi choisir les façons de nous adapter à cela. Et donc, et là je rejoins ce qui a été dit, nous sommes quand même à la fin de la grande fête consumériste. C'est la fin. Alors, c'est différent selon les sociétés, c'est différent selon les milieux, bien sûr. Il y en a qui continuent à festoyer sur le Titanic, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des sociétés qui n'ont absolument pas conscience de cette fin du consumérisme. Mais toutefois, depuis la crise des subprimes, depuis 2008 justement, il y a quand même une conscience qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est rompu, et que sans doute nous ne pourrons plus continuer toute cette orgie de consommation, cette liturgie de la consommation autour de la croissance. Et donc mon sujet en fait ce soir, c'est comment penser la consommation pour des sociétés de post-croissance ou des sociétés prospérité sans croissance, on peut dire, en tout cas des sociétés de post-croissance, comment penser la consommation. Et donc pour arriver, non pas à déjà donner les réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions, et donc mon travail ce soir, ça va être essayer de voir avec vous quels sont les ressorts de cette consommation, quels sont les ressorts de l'addiction aussi à la consommation, parce qu'elle ne nous est pas simplement imposée, la consommation. Il y a une adhésion, sinon le système ne fonctionnerait pas. Sinon, nous serions dans des grandes campagnes de boycott majeures qui, effectivement, poseraient problème. Il y a un système quand même donc, d'adhésion, on peut dire d'addiction à cette forme de consommation. Et donc, comment sommes-nous ? D'où est né ce consumérisme ? Alors, le consumérisme, je l'entends comme l'idéologie de la consommation. L'idéologie qui consiste à dire plus, c'est mieux. C'est cela, le consumérisme. Et le consumérisme, c'est aussi la rationalisation de la consommation. Je crois que demain, il va y avoir une conférence aussi, d'après ce que j'ai entendu, sur tous ces phénomènes de culpabilisation individuelle du consommateur, de consommation responsable, de consommation éthique, de consommation, c'est-à-dire d'une rationalisation de la consommation qui fait partie du consumérisme ou d'un néo-consumérisme, c'est-à-dire on va bien consommer, on va enfin bien consommer selon des règles vraiment rationnelles, beaucoup plus rationnelles. Donc ça, c'est ma première question. Et deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment sommes-nous passés d'un capitalisme initial qui était un capitalisme très imprégné de valeurs finalement assez puritaines, assez ascétiques, valorisant l'épargne. L'épargne qui étant le support de l'investissement et donc de l'accumulation. Tout ce premier capitalisme, bon, qui a été très imprégné des valeurs protestantes d'ailleurs, du puritanisme, de l'ascétisme, etc., mais pas seulement protestant. Comment sommes-nous passés de ce capitalisme-là à un capitalisme justement qui est contraire, fondé sur la consommation, un capitalisme hédoniste, je dirais, ou hédonistique, qui est fondé sur le bien-être, sur la recherche du bonheur personnel, avec la maximisation du plaisir et la maximisation de la consommation. Donc un capitalisme que certains ont appelé libidinal et qui aujourd'hui est en train de se transformer en capitalisme véritablement pulsionnel, j'en dirai un mot. Et donc quelles sont les voies finalement que nous devrions emprunter au vu de tout cela pour retrouver une sorte d'abondance frugale, de frugalité dans l'abondance, une autre manière d'être au monde et de revaloriser des formes plus simples et frugales d'être au monde. Alors ceci, je ne le traiterai pas vraiment dans mon exposé, puisque demain, il va y avoir des conférences sur les alternatives justement au consumérisme et aux tout-consommations. Donc ce sera conclusif. Alors pour moi, premier point, donc un des points que j'ai choisi, qui me paraît être un point de rupture très important pour comprendre l'émergence du consumérisme dans le capitalisme, c'est ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle et qui a des échos dans la société d'aujourd'hui et dans les débats que nous avons aujourd'hui. Donc j'ai noté une première rupture importante, c'est la pensée économique de la fin du XIXe siècle, et c'est ce qu'on appelle la pensée néoclassique, qui est la pensée dominante aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le corpus à partir duquel toutes les pensées aujourd'hui dominantes se sont construites. Il y avait un grand débat dans tout le XIXe siècle qui consistait à dire d'où vient la valeur d'un bien ? Quelle est l'origine de la valeur d'un bien ? Et les économistes classiques, jusqu'à Marx, Adam Smith, Ricardo, Malthus, et jusqu'à Marx, voilà pourquoi certains mettent Marx dans les classiques même, ont théorisé le fait que la valeur d'un bien, c'est le fait, pourquoi un bien a une valeur économique, c'est parce qu'il est produit par du travail. C'est toute la théorie de la valeur travail, et la valeur d'un bien dépend de la quantité sociale de travail nécessaire, direct et indirect, pour produire ce bien. Et donc, on a dans ce moment-là, dans ce 19e, dans la pensée économique, dans l'économie politique, une conception objective de la valeur. Purement conception objective. Et donc on peut comprendre que la figure centrale de la société dans tout ce 19e siècle, ça va être le travailleur. Dans le marxisme, c'est le prolétaire. Mais chez les Saint-Simoniens, par exemple, c'est le travail, c'est le travailleur. Et donc c'est vraiment la figure centrale, c'est l'agent qui produit la richesse. Et on va avoir, donc il y a tout un débat sur la valeur dans le 19e, très intéressant, et les marxistes, comme les classiques, distinguent bien ce qui est la valeur d'usage d'un bien et la valeur d'échange. Cette valeur d'échange qui équivaut donc à la quantité de travail qui a été nécessaire pour la produire, le capitalisme étant orienté non pas vers la production de valeur d'usage, mais vers la production de valeur d'échange. Fin 19e siècle, il y a une rupture dans la pensée économique, rupture absolument centrale et fondamentale. Il y a une remise en cause de l'idée de valeur travail. L'idée que la valeur d'un bien, la richesse d'une société, est le produit du travail des humains. Et ce qui émerge comme conception de la valeur, c'est une conception subjective de la valeur, plus du tout objective. La valeur d'un bien dépend de l'utilité du bien et du désir que j'ai de ce bien. Et donc, si vous voulez, ce qui donne la valeur à un bien, ce n'est plus ses qualités intrinsèques, le fait d'avoir été produite par du travail, d'avoir été produit par du travail humain, c'est le désir que les consommateurs ont de ce bien. Et si ce désir est très fort, il va y avoir une très forte demande. Cette très forte demande va engendrer une augmentation du prix du bien. Et pour les néoclassiques, il y a une confusion entre prix et valeur. On ne se pose plus la question de la valeur c'est le prix. Et donc la valeur d'un bien dépend de sa désirabilité. Et c'est pour cela que la figure centrale de la théorie économique, ce n'est plus le producteur, c'est le consommateur, puisque le consommateur, c'est lui qui finalement va être l'indicateur de la richesse, l'indicateur de la valeur du bien. C'est une rupture philosophique, éthique, etc., absolument fondamentale. Donc c'est la fin du 19e, ce n'est pas dans le 20e siècle. Et cette théorie économique se construit sur la base d'une théorie qui se veut scientifique, qui se veut donc neutre sur le plan éthique, et du coup, et en particulier c'est un de ses chefs de file qui s'appelle Walras, qui nous dit que toutes les discussions qui ont occupé le 18e siècle, encore le 19e siècle, sur est-ce qu'un bien est utile ou inutile, toute la querelle du 18e siècle sur le luxe, tout ceci n'a plus aucun sens pour l'économiste. Un bien est utile dès lors qu'il répond à un besoin solvable sur un marché. Utilité, hein, ce qui est utile, c'est ce qui est solvable. Et on ne doit pas apposer de jugement moral sur de l'inutile, du superflu. Ça, c'est de la morale, nous dit-on. Et ça n'a rien à voir avec l'économie. L'économie qui se veut se construire comme une science, sur le modèle des sciences naturelles, la science physique en particulier, et qui ne doit pas s'encombrer de jugements normatifs de ce type. Et donc, tout ce débat sur le luxe, sur l'utile, l'inutile, est complètement évacué avec la figure centrale du consommateur qui est rationnelle, qui va vraiment chercher à maximiser sa satisfaction, son utilité, et qui va obtenir le plus grand bonheur possible dans la consommation. Voilà le contexte, si vous voulez, de la pensée économique qui reste aujourd'hui. C'est cette pensée-là qui est la pièce maîtresse, si vous voulez, de tous les développements qu'il y a eu dans la pensée économique que nous appelons la pensée mainstream, la pensée dominante. Donc le consommateur est roi, et ainsi l'éthique de l'ascétisme, de l'épargne, de les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc., etc. Tout ce qu'on avait dans le 18e, dans le 19e siècle disparaît au profit véritablement d'une éthique hédoniste, de l'éthique de la jouissance consommatrice. Et donc, les valeurs marchandes se réfèrent non plus au travail, mais au désir. Et donc, on voit apparaître à ce moment-là une espèce d'esthétisation de la marchandise. On ne parle plus d'ailleurs de marchandises, parce que dans marchandises encore, il y a quand même des rapports sociaux dans la marchandise. Les rapports sociaux disparaissent totalement, évidemment, du discours, de ce discours-là. On produit des objets, c'est ce que Marx appelait la réification de la marchandise, c'est-à-dire l'oubli que dans une bouteille ainsi, bon, il y a des rapports sociaux dans la fabrication de cette bouteille. C'est un objet, mais ce n'est pas n'importe quel objet. Moi, j'ajouterais aujourd'hui, il n'y a pas que des valeurs sociales, il y a du plastique aussi. Il y a des ressources naturelles, il y a de l'énergie, ce que Marx ne disait pas à l'époque, mais il y a des rapports sociaux et il y a des ressources naturelles qui ne sont pas infinies. Mais tout ceci est totalement neutralisé. Totalement neutralisé. D'ailleurs, on parle de bien. Et d'ailleurs, le terme n'est pas neutre, là aussi. Pourquoi appelle-t-on ça des biens ? Pourquoi ceci est un bien ? D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un bien. Pourquoi ceci est un bien ? Eh bien, c'est parce que dans la réflexion économique, tout ce qui accroît la consommation représente le bien avec un grand B. Et donc, ceci, ce sont des biens avec un petit b. Ce sont des biens économiques. On ne parle plus de marchandises parce que c'est encore un peu trop marqué, encore une fois, par ces rapports sociaux. Donc, on a un processus véritablement de réification. Est utile ce qui est solvable ? Un bien est un bien avec un petit b. Un déchet est un déchet. Un déchet peut devenir un bien. Et un bien peut devenir un déchet en créant un marché pour cela. C'est le cas, par exemple, des marchés de la pollution aujourd'hui. Hein. Il n'y a aucun problème, y compris même de l'économie circulaire, hein, de certaines visions de l'économie circulaire, où les déchets deviennent des ressources. Et tout ceci, le terme de déchet même n'est pas du tout entaché d'un quelconque jugement moral sur pourquoi produisons-nous autant de déchets. Un déchet, c'est un bien comme un autre. À condition, il devient un bien comme un autre, à condition qu'il y ait un marché pour pouvoir le valoriser. Donc voilà la rupture qu'il y a eu vraiment à la fin du XIXe siècle. Et du coup, on assiste à une véritable indifférenciation généralisée des différents biens économiques. Alors déjà, il y avait des critiques à la fin dans le XIXe siècle. Il y avait des critiques, bon, bien sûr Marx, hein, toute la critique, mais qui a été souvent, sous-utilisé, sous-estimé, oublié par nombre de courants marxistes, qui a retenu de la pensée de Marx uniquement l'exploitation du travail dans la production et qui a oublié tout le travail de Marx sur l'aliénation. Sur l'aliénation et précisément la réification, c'est-à-dire le fait que les relations entre les humains soient désormais remplacées par des relations entre des objets, entre des marchandises. Tout cet aspect de la pensée de Marx sur l'aliénation a été souvent oublié ou bien rejeté dans le jeune Marx, un peu idéaliste encore. Hein, ça c'est les travaux d'Althusser aussi, hein, pour favoriser au contraire le Marx de la maturité, qui est le Marx matérialiste, qui est le Marx de l'exploitation, et tout le Marx de l'aliénation a été oublié. Donc il y avait la critique de Marx et il y avait la critique, alors Charles Gide bien sûr, tout le courant coopératif, le courant socialiste surtout, coopératif bien sûr, pas seulement, enfin, il y avait tout ce courant coopératif. Et je voudrais parler de quelqu'un que je trouve extrêmement important par rapport à ce que nous vivons aussi aujourd'hui, c'est William Morris. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il faisait partie de ces socialistes révolutionnaires, de ces socialistes utopiques, comme disait Marx à l'époque. Il a écrit un texte magnifique qui s'appelle « Les nouvelles de nulle part », qui est une sorte d'utopie, et également comment nous pourrions vivre. Et c'est un des premiers, je pense, qui fait une véritable critique de la civilisation industrielle. De la civilisation industrielle qu'il assimile à une dégradation de la qualité des objets. Et ça, on ne le trouve pas chez les marxistes, chez Marx. Au contraire, il y a l'apologie de la société industrielle qui, finalement, va permettre l'émancipation du prolétariat. Et plus la société industrielle se développe, plus le prolétariat se développe et plus les chances du socialisme se développent. Donc là, il y a une critique. Alors, il était très proche de Marx, William Morris. Keynes, d'ailleurs, s'inspirera pas mal de William Morris, j'en reparlerai. Mais là, c'est la première critique forte, véritablement, et critique socialiste de la société industrielle. Il y avait des critiques, je dirais, réactionnaires de la société industrielle. Mais là, c'est une critique socialiste de la société industrielle comme appauvrissement du travail et appauvrissement des objets. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'ère de l'ersatz ». Hein, fin 19e siècle, c'est-à-dire déjà la conscience forte, hein, que ce que nous consommons, ce ne sont que des ersatz, finalement, de quelque chose qui pourrait donner du sens à notre existence. Deuxième moment important pour comprendre ce qui nous arrive, je dirais aujourd'hui, alors je vais un peu vite, hein, donc là j'étais fin 19e siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale. L'après-Seconde Guerre mondiale, les années 30 et la Seconde Guerre mondiale, où là, vraiment là, on a l'émergence de ce qu'on appellera le consumérisme de masse. Parce que dans le 19e siècle, on n'a pas de société de consommation. On a un capitalisme qui est très particulier par rapport à celui d'après. On dit qu'il y a une croissance qui est extensive. Le ressort de l'accumulation, le ressort de la croissance, ce n'est pas la consommation. Le ressort de la croissance, c'est la construction d'infrastructures. Pensez les chemins de fer, la sidérurgie, la métallurgie, etc. La consommation n'est pas ce qui va propulser l'accumulation du capital dans le 19e siècle. Et dans le 19e siècle, ce qui domine comme théorie économique, c'est la théorie économique libérale, qui consiste à considérer le salaire comme un simple coût de production. Le salaire est un coût de production qu'il faut essayer, ça, on a ça aujourd'hui aussi, hein, est un coût de production qu'il faut essayer de réduire au maximum. Et ça a été toutes les politiques libérales du 19e siècle sur, dès qu'il y avait une crise, que les profits tendaient à diminuer, Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, des politiques qu'on appellerait d'austérité aujourd'hui ou de rigueur, mais plus que ça, c'était le chômage. Hein. On licenciait sans droit de licenciement et sans aucun droit de rien du tout, et on abaissait les salaires. Le salaire était vraiment la variable d'ajustement par rapport aux crises. Mais dans la fin du XIXe siècle apparaît un nouveau phénomène. Je parlais tout à l'heure de la rationalisation de la consommation, mais il y a surtout, à la fin du XIXe siècle, la rationalisation du travail, avec le taylorisme, qui apparaît fin du XIXe et qui se développe progressivement, bon, en particulier aux États-Unis, mais ça se diffuse assez vite. Le taylorisme, hein, la division du travail intellectuel et du travail manuel, division des tâches manuelles également, et à cela s'est ajouté le travail à la chaîne, et donc la standardisation des produits. Et donc, dans le début du XXe siècle, on commence à avoir véritablement une production de masse. Une production de masse qui se passe dans des sociétés dans lesquelles les salaires sont toujours considérés comme un coût de production qu'il faut réduire au maximum. Et là, on a une des causes majeures de la crise de 1929. Cause majeure de cette immense crise de sous-production, de surproduction et de sous-consommation, et qui va engendrer de nouvelles régulations pour le capitalisme et le passage à une société qui sera fondée sur la production de masse et la consommation de masse. Parce qu'il ne peut pas y avoir standardisation, production de masse, sans consommation de masse. Et du coup, on voit émerger une autre manière de considérer le travail, le salaire. Le salaire n'est plus considéré comme un simple coût de production, il est considéré aussi comme un débouché pour la production. C'est la fameuse expérience de Ford aux États-Unis. Bon, voilà pourquoi on a appelé ça après le Fordisme. C'est faire beaucoup d'honneur à Ford, mais bon, bref, c'était quelqu'un de pas très recommandable quand même, hein. Antisémite notoire et esclavagiste véritablement dans ses entreprises, donc qui a compris quand même que pour vendre son modèle de Ford T, la fameuse Ford T, qui a été la base de l'expansion véritablement de l'industrie automobile aux États-Unis, eh bien, il fallait qu'il augmente les salaires, sinon personne ne pouvait acheter ces voitures qui sortaient de la chaîne de manière continue. Il fallait assurer une continuité des salaires. Bon, les mauvaises langues, dont je suis, disent qu'il n'a pas été aussi génial que ça, c'est que s'il a augmenté les salaires, c'est aussi parce que les conditions de travail étaient telles chez Ford que les ouvriers partaient et que ça a été un moyen aussi de fidéliser ces travailleurs que d'augmenter les salaires. Bon, peu importe, mettons qu'il était visionnaire, en tout cas, c'était partagé à l'époque, hein, l'idée qu'on ne pouvait plus considérer le salaire comme un coût, mais qu'il fallait considérer le salaire comme un débouché pour la consommation. Et on va avoir donc là, véritablement, l'émergence de la consommation de masse, appuyée bien sûr sur les théories keynésiennes, hein, puisque pour Keynes, effectivement, l'origine de la crise du capitalisme, de la crise de 1929, c'est une insuffisance de la demande effective. Et donc, il va falloir stimuler la demande effective. La demande, c'est à la fois la consommation et l'investissement, mais c'est la consommation. Et donc là, on a, dans ces années 30, l'expérimentation surtout aux États-Unis, mais aussi un peu en Allemagne d'ailleurs, hein, de ces politiques de relance qui sont d'inspiration keynésienne et qui vont se généraliser après la Seconde Guerre mondiale, où là, on va comprendre qu'on doit absolument, pour que le capitalisme puisse perdurer dans sa volonté d'une accumulation du capital infini, il va falloir qu'on aménage une possibilité de consommation continue, régulière. Imaginons une chaîne de production, c'est quelque chose qui produit en continu des biens économiques ou des mots économiques, hein, comme vous voulez, en tout cas des biens économiques. Et donc il faut qu'il y ait l'assurance d'une consommation qui puisse s'effectuer de manière continue et pas simplement de temps en temps. Sinon, on va se retrouver avec des stocks ingérables, etc., et des crises de surproduction. Et c'est toute l'organisation, hein, de la société d'après 1945 où là, on se rend compte des difficultés que nous avons dans nos revendications. Il y avait bien sûr des revendications pour le salaire minimum, des revendications de conventions collectives, etc., qui ont été des progrès sociaux extrêmement importants et qui, en même temps, ont permis l'organisation d'un revenu salarial régulier pour une grande partie de la population et qui a permis justement, pendant, alors, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, elles ne sont pas 30 en fait, et moi je les appelle plutôt calamiteuses, mais les 30 glorieuses, mettons 20 glorieuses, ça s'est détraqué un peu avant les 30 ans, d'une sorte d'expansion de la production de masse, consommation de masse, avec des taux de croissance extrêmement élevés. Et là, on a toute la philosophie consumériste qui s'est développée, avec l'idée que finalement, c'était ça la démocratie. C'était ça la démocratie, la possibilité de choisir entre différents produits, l'accès à la consommation. Ça a été considérablement utilisé par rapport à l'autre modèle, le modèle soviétique, qui n'était pas fondé sur la consommation, pas du tout, mais au contraire sur l'industrie lourde, sur etc., etc. Et donc ça a été la concurrence des systèmes sur l'accès à la consommation, avec en particulier alors consommation individuelle, structurée autour de la voiture, la Ford T, en France la 2 chevaux, en Allemagne la Volkswagen. Bon, c'était tous c'était la voiture du peuple. Volkswagen, c'est eux qui ont vraiment trouvé le terme le plus approprié à la période. C'était la voiture du peuple, avec des salaires qui permettaient d'acheter les voitures. Et avec la voiture, ça a été la petite maison individuelle aux États-Unis, avec tous les biens de consommation individuels qui vont avec la maison individuelle. Ça a été les ressorts véritablement de ce qu'on appelait la croissance fordiste. Et tous les économistes ont bien entendu communié aux bienfaits de la croissance fordiste. On parlait en économie. Moi, j'ai enseigné à mes étudiants pendant des années le cercle vertueux de la croissance fordiste, c'est-à-dire une production de masse qui s'alimentait par une consommation de masse, et donc un cercle vertueux qui ne devait pas s'arrêter. Il y avait un sentier de croissance qui était à l'infini. Bon, c'était pas si vertueux que ça, parce que il n'y avait apparemment que des gagnants. C'était un jeu gagnant-gagnant, tout le monde y gagnait. Il y a une phrase de Galbraith que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre sur l'abondance, qui disait « Plus il y en aura, plus il finira bien par y en avoir pour tout le monde ». Mais c'est exactement ça, et c'est toute la pensée social-démocrate. Augmentons le gâteau, on finira bien par en donner un petit peu à tout le monde. Et augmentons-le de manière infinie. C'est beaucoup plus facile de partager un gros gâteau qu'un petit gâteau. Parce qu'un petit gâteau, ça devient politique quand même pour le partager. Le gros gâteau, y en a pour tout le monde, c'est la fête généralisée. Donc, c'était vraiment ça qui régnait. Fini la lutte des classes, ça a été toutes les théories de l'embourgeoisement de la classe ouvrière, de l'accès de la classe ouvrière à des biens qui étaient jusque-là réservés véritablement à des catégories, à la bourgeoisie ou à l'aristocratie. Et donc, un capitalisme que certains psychanalystes, j'aime bien, appellent capitalisme libidinal. C'est-à-dire, travaille bien et tu auras des récompenses. Oublie les conditions de travail, oublie tout ça, travaille, fais des heures supplémentaires et tu vas pouvoir t'acheter la télévision, le réfrigérateur, etc. etc. Il y a la récompense, il y a la récompense au bout, il y a le plaisir. Mais j'ajoute, et ça je ne l'ajoutais pas avant, il y a 10 ans, cette consommation-là, ce système consumériste, il est fondé sur une consommation qui est, qui est totalement gaspillatrice, je ne sais pas si on le dit, qui gaspille l'énergie. C'est une consommation à très forte dose d'énergie. Et ça, on ne l'avait absolument pas mesuré. Absolument pas. Donc, un style de vie fondé sur une énorme consommation d'énergie. Et les démocraties qui se sont construites à ce moment-là, enfin, qui se sont renforcées, il faut dire que ça concernait à peu près 1/10 de la population mondiale, ce système-là. À peine 1/10 de la population mondiale. Bon. Ces démocraties, elles se sont construites donc. C'est-à-dire l'octroi de nouveaux droits aux travailleurs, de droits sociaux, etc., dépendent toujours de ressources énergétiques, et en particulier des ressources fossiles. Du charbon et du pétrole, surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'est le pétrole qui devient l'énergie. Énergie extraordinaire, très très bon marché, puisqu'on va la chercher dans les sociétés coloniales ou des sociétés du Sud généralement. Donc pétrole, très très bon marché. Un pétrole qui est très intéressant parce que contrairement au charbon, qui étaient des... Le charbon, c'est quelque chose qui est matériel, qui fixait les travailleurs. Il y avait des mines, il y a eu énormément de grèves. Et les mineurs ont été des catégories sociales qui, dans l'histoire du capitalisme, ont obtenu des droits qui se sont diffusés à d'autres catégories sociales. Et les mineurs avaient un pouvoir de blocage sur l'économie extrêmement fort. Là, le pétrole... Le passage au pétrole a cassé littéralement les possibilités de résistance des mineurs. Parce que le pétrole, on va le chercher très loin. Il est raffiné, ça dépend où, parfois sur place, parfois dans nos sociétés. Il est acheminé par des pipelines. Et donc, il n'y a plus, concernant cette utilisation du pétrole, les possibilités de résistance qu'il pouvait y avoir par rapport au charbon, concernant les droits, etc. etc. C'est liquide, c'est facilement transportable, bon, bref, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, notre consommation dépend totalement du pétrole. Et ça, nous en avons pris conscience assez récemment, finalement. Dans les années 70, hein, où l'essentiel de ce que nous consommons, hein, est à base d'énergie fossile, à un moment où nous devons sortir absolument des énergies fossiles si nous ne voulons pas avoir plus 5 ou plus 6 degrés d'augmentation générale des températures d'ici 2100, l'objectif étant 2 ou 1,5 degrés. Donc, une consommation, ce consumérisme s'est alimenté, hein, d'une consommation de biens à très forte intensité énergétique, très très forte intensité énergétique. Voire même, j'ai retrouvé des classements de la Banque mondiale qui classaient le niveau de développement des pays en fonction de la dépense énergétique, de la consommation énergétique. C'est-à-dire que plus on consomme l'énergie, plus on est développé. Moins on a de paysans, plus on est développé. Le summum du développement, c'est quand on a 3% de paysans dans la population active, là on a un vrai pays développé et moderne. Eh bien c'est la même chose là. Là on est très développé quand on consomme beaucoup d'énergie, ça a été un critère de développement, la consommation d'énergie. Et enfin, dernier point que je voulais signaler, c'est que cette société de consommation, puisqu'on l'appelait comme ça, déjà à ce moment-là, elle a été aussi fondée sur ce qu'on a appelé, alors maintenant on en parle beaucoup, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire la diminution de la durée de vie du produit. Et c'est programmé. C'est-à-dire ce n'est pas l'obsolescence qui survient, hein, c'est donc la nécessité pour justement... qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre la production de masse et la consommation de masse, pour qu'il y ait toujours cet équilibre-là, il faut raccourcir le cycle de vie du produit et donc faire que ce produit devienne obsolescent assez rapidement, ce qui revient à une consommation forcée. Une consommation forcée qui n'a pas grand-chose à voir avec le bien-être ou avec un supplément, hein, un supplément de bien-être, un supplément de bonheur pour ceux qui sont obligés de changer leur machine à laver parce que la pièce a lâché. Alors bien sûr, cette société de consommation a alimenté énormément de critiques. Je ne vais pas les citer toutes, mais quelques-unes par rapport au programme que j'ai regardé très intéressant de ce festival. Énormément de critiques dans les années 50-60. 70, jusqu'aux années 1970, critique de la société de consommation, critique multiforme. Bon, évidemment, il y a eu des interrogations sur le marxisme et une relecture du marxisme. Pas de Marx obligatoirement, du marxisme, des marxismes qui avaient sous-estimé cette question de la consommation, puisque la vulgate marxiste consistait à dire il faut d'abord changer le système de production et tout le reste suivra après. C'est secondaire. La lutte principale, c'est sur la production et tout le reste suivra. Et donc la consommation, c'est des problèmes de riches, de regarder les problèmes de consommation. Regardons uniquement la production, c'est l'entreprise, la production, les rapports de production capitalistes. Et donc là, il y a des critiques à l'intérieur même, hein, du marxisme. C'est des gens qui ne rompent pas obligatoirement avec le marxisme. C'est tout ce qu'on a appelé l'école de Francfort. Le plus connu, peut-être en France, ça a été, bon, par les gens qui sont peut-être un peu plus âgés dans la salle, Marcuse, Hein, l'homme unidimensionnel qui était une critique absolument radicale de la société de consommation, justement, et pas simplement de la société de production. Donc Marcuse, Adorno, etc. Donc là, avec une critique très très forte, mais une critique, encore une fois, qui vient du marxisme, qui n'est pas la critique réactionnaire d'un regret des temps anciens, etc., etc. Donc c'est une critique de la société de consommation, critique des industries culturelles. Là, c'est Benjamin, mais après, c'est d'autres aussi. Adorno, de toute l'aliénation qu'il y a dans la culture qui est devenue une industrie culturelle, qui nous sert des biens de consommation pour calmer notre besoin de culture. Bon, ça a été... Bon, je suis obligée d'aller vite. Ça a été tous des courants. Alors, j'en parle un petit peu de cela parce que c'est présent dans le festival. C'est tous ceux qui ont été un petit peu, dans les années 60, considérés comme étant à l'origine de ces mouvements autour de 1968. C'est tout le courant situationniste, avec Guy Debord en particulier, la société du spectacle. Mais j'ai quand même ramené, parce que demain soir il y a un film sur Guy Debord, j'ai ramené un livre de Guy Debord qui est moins connu et qui est excellent, 1972, La planète malade. C'est un complément de la société du spectacle, c'est excellent, où là il voit bien la dégradation en même temps de la société et de la Terre, les deux étant intimement liés. Donc tout ce courant situationniste, tous les courants de socialisme ou barbarie, je pense à Castoriadis, etc. Bon, des critiques qui sont vraiment, qui se sont construites, des critiques socialistes, je dirais, et des critiques révolutionnaires, pas réactionnaires, de la société de consommation, et le début de la critique écologiste de la société de consommation. Là, je crois qu'on a eu, il y avait Illich, bien sûr. Illich qui a été un père, je dirais, pour beaucoup de penseurs. En particulier, il a beaucoup influencé André Gortz. André Gortz qui, vraiment, a apporté une critique au marxisme extrêmement importante sur la question des besoins. Puisque dans les courants marxistes, on n'interrogeait plus les besoins. L'économie devait répondre aux besoins. Mais qu'est-ce que c'est que les besoins ? Et donc Gortz a vraiment réorienté toute sa réflexion à partir des besoins, de ce qu'il appelait la nécessité de mettre en place ce qu'il appelait, lui, une norme du suffisant. Et il a développé la notion d'auto-limitation. L'auto-limitation, la norme du suffisant. De quoi avons-nous besoin ? C'est une discussion politique fondamentale qui ne peut pas être tranché par des experts qui supposent une démocratisation de la société pour que les limites auxquelles nous consentons soient discutées absolument collectivement et de la manière la plus démocratique. Bon, je pense donc à Illich, Gortz, je vais en oublier beaucoup. Il y a eu tout le rapport du Club de Rome sur la croissance, sur halte à la croissance, qui a été aussi, complètement critiqué, sous-évalué, y compris par les courants et surtout par les courants de gauche marxiste, parce que c'était une atteinte au développement des forces productives et que ça sentait un peu la CIA, et c'était pour affaiblir finalement les choses. Donc là, en plus ça s'est passé à Rome, le rapport à la communauté Sant'Egidio, donc c'était un peu suspect, mais ce rapport du MIT est extrêmement important, c'est sur l'épuisement des ressources naturelles, qui a été repris ensuite. J'insiste un peu là-dessus, parce qu'il est courant d'entendre aujourd'hui, par certains penseurs, que finalement 1968 est ce qu'il y a eu. Ça a été une grande révolution néolibérale, on l'entend beaucoup aujourd'hui, avec la poussée de l'individualisme, de l'hédonisme, etc. etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très souvent, on met à 68, à la pensée 68arde, on lui fait porter la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, de la fuite en avant dans la consommation, dans l'individualisme frénétique et tout. C'est grave. Cette pensée 68... c'était une critique radicale de la société de consommation. Consomme et tais-toi, c'était quand même le slogan. C'est métro, boulot, dodo, c'était tout ça, on n'en veut plus. Et c'était consomme et tais-toi, éteins la télé et sors. Ce que nous payons aujourd'hui, ce n'est pas 68, c'est l'échec de 68. Or, très souvent, ce que nous entendons, c'est que nous sommes dans un monde qui valorise l'hédonisme, l'individualisme, et que ce seraient les valeurs de 68. Non. Cette critique de la consommation, c'était une critique socialiste. Je ne sais pas comment le dire, ou communiste, ou social, pas communiste, socialiste, révolutionnaire en tout cas, de la consommation. Et il y avait une conscience très forte de l'aliénation dans cette consommation et le refus de cette aliénation. En revanche, ce qui s'est passé après 68, où il y a eu échec de 68, évidemment, le capitalisme, c'est vrai, a été capable, parce que c'est un système extrêmement mobile, a été capable d'intégrer et de faire une force productive de la contestation. Ça, oui, en particulier, il y a le magnifique livre de Boltanski, hein, Le nouvel esprit du capitalisme, comment le capitalisme est capable de réintégrer dans son circuit ce qu'ils appellent la critique artiste du capitalisme. Et donc, on voit apparaître, hein, après 68, des nouvelles formes de marketing, de management, toutes ces idées de design, de concept, le concept de ci, concept de là, concept de yaourt, concept, ça ne veut rien dire, mais bon... Bref, hein, l'idée de casser les hiérarchies, tout ce qu'on veut. Donc ça, mais ça, ce n'est pas l'esprit 68. C'est comment, du fait que dans le rapport de force, c'est quand même, le capitalisme est toujours là, et c'est vrai que c'est un système qui est capable, hein, de rebondir et de, comment dire, de faire une force de sa contestation, interne, enfin d'une certaine forme de contestation interne. Alors, dernier point, finalement. Bon, ça va, je vais à peu près tenir. Suite à cela, je voulais quand même faire un point sur la réaction néolibérale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est les années 1980. Parce que dans ces années 50, 60, 70, cette critique de la consommation, critique de la croissance, c'est très fort. On l'a oublié après. Parce que les années 1980-1990, ça a été la mondialisation heureuse, le culte de l'argent, le culte de la réussite, les marchés qui allaient tout résoudre, etc., etc. Et on a oublié toute cette effervescence de la pensée qu'il y avait précédemment, qui a été totalement oubliée et minorisée dans ces années 80-90. Alors, la réaction néolibérale en matière de consommation, bien sûr, le néolibéralisme radicalise le consumérisme. Un des éléments centraux vraiment de la pensée, de toute la philosophie néolibérale, c'est le fait que les individus, et donc le consommateur, il est parfaitement autonome, il est parfaitement autocentré. Il ne dépend pas d'institutions sociales. L'individu précède la société. Il n'y a pas de société, d'ailleurs, disait Margaret Thatcher. Il n'y a que des collections d'individus. La société n'existe pas. Et on a l'émergence d'un individu tout-puissant. Maître de ses actes, auto-entrepreneur. La figure de l'auto-entrepreneur, c'est typiquement une figure libérale, néolibérale de la personne. Et il devient aussi auto-entrepreneur de lui-même. Et il a pour charge de fabriquer son identité, ce qui n'est pas une mince affaire, de fabriquer son identité. Il pourra même se refabriquer ses neurones, ça c'est pour une autre phase. En tout cas, il doit se refabriquer une identité. Il est tout puissant, il est auto-entrepreneur, auto-entrepreneur de lui-même, et c'est un être asocial, apolitique, ahistorique, et qui est parfaitement supposé autonome. Et cette fabrique de l'identité, c'est un sujet qui est majeur, et on retrouve tout le thème de l'identité d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si c'est ressorti, toutes ces questions d'identité. Le néolibéralisme a été un lit, véritablement, pour toutes les discussions identitaires. Donc, fabrique de l'identité, sujet majeur, qui trouve sa solution dans la consommation d'objets et d'expériences. Je me fabrique mon identité avec la consommation d'objets et consommation aussi d'expériences. Et consommation d'objets et d'expériences toujours renouvelée, parce que l'identité, elle est toujours menacée. Elle est flottante, elle n'est plus fixe, on n'est plus dans l'identité objective. Une identité qui toujours doit être sanctionnée par le marché. Il y a toujours une sanction qui arrive par le marché, et on voit se développer des marchés de l'identité, de l'authenticité, des produits éthiques, des produits authentiques, etc., etc. Et on voit également apparaître là véritablement une culture de l'instant, une culture de l'instantané, c'est-à-dire qu'il y a une accélération des processus qui fait que le besoin doit être satisfait immédiatement parce que le poids de cette recherche identitaire est tel que cela doit être, c'est pulsionnel, je dirais, on n'est même plus dans la libido là, hein. C'est véritablement la pulsion qui fait que je dois obtenir ce produit qui va constituer véritablement mon identité. Évidemment, ceci a été accéléré par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, ça a été l'explosion à partir des années 1980, avec le développement de tous les réseaux sociaux. Alors, et l'ambivalence de ces réseaux sociaux, l'intérêt de ces réseaux sociaux, et les limites et les dangers aussi de ces réseaux sociaux, réseaux sur lesquels on est quand même seul ensemble, comme disent certains. Je trouve l'expression assez bien. On est ensemble mais seul, depuis chez soi. On est seul ensemble par rapport à la question sur le commun. Il n'est pas certain que les réseaux sociaux soient vraiment du commun. C'est du seul ensemble. Et qu'est-ce qui va primer ? Est-ce que c'est le seul ou c'est l'ensemble ? Et il y a l'idée qu'on n'existe pas sans le regard des autres. Ça, c'est évident qu'on n'existe pas sans le regard des autres. Et donc, il y a toute une culture de la visibilité qui va se développer. Le summum, c'est les selfies avec le narcissisme. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites hein, sur le narcissisme qu'a développé la société néolibérale. Hein. Justement, mais qui vient de cette quête identitaire. Hein, qui vient d'une quête identitaire qui doit toujours absolument être vérifiée, se renouveler et confirmée aux yeux des autres. Et donc, une aspiration dans la consommation. J'ai lu un chiffre qui m'a effrayé. 80% des enfants qui naissent, des bébés, sont sur Facebook. Les parents mettent sur Facebook des photos. Voilà, c'est quand même... Mais ça, c'est la visibilité. C'est la, comment dire, la validation sociale de ce que je suis. C'est plus le travail. C'est pas, ça, c'est pas la validation sociale. La validation sociale, c'est l'image que je suis être capable de transférer à tous ceux, au cercle d'amis, etc., etc. Dernier point, c'est sur les algorithmes. Et l'individualisation de la consommation. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, on nous a appris pendant très longtemps que la consommation est fonction de nos désirs. Nous avons des désirs, et ces désirs se traduisent en consommation. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que la pratique des algorithmes, de la trace, etc., fait que nos désirs nous précèdent. Nos désirs ne nous appartiennent plus. Nos désirs, ce sont les GAFA, les Google, Amazon, etc., qui, par toutes les traces qu'ils effectuent, par toute la collecte des données qui nous concernent, qu'ils effectuent, prédéfinissent nos désirs, font de nous, non pas des consommateurs potentiels. Nous sommes des consommateurs potentiels, répertoriés par toutes ces industries de la communication. Donc on devient un client potentiel dans un véritable Far West numérique quand même. Sans aucune régulation. C'est tous les big data. Alors bien sûr, là aussi, on retrouve, d'ailleurs, parce que je n'aurai pas le temps de le dire, mais ça, ce sera traité demain, toutes ces grandes sociétés, Amazon, etc., posent des problèmes même par rapport à des alternatives sur la consommation. Bon, demain, vous parlerez sans doute de la consommation, pas coopérative, collaborative. Les Airbnb, etc., etc., qui sont partis hein, d'un désir, effectivement, de gratuité et qui, aujourd'hui, sont complètement monopolisés par ces grands groupes qui, en même temps, tuent d'autres gratuités parce qu'ils ne payent pas les impôts, ils payent pas de cotisations sociales, ils tuent toutes les autres gratuités sociales que nous avions construites au nom de gratuités individuelles et qui sont monopolisés dans ces grands groupes privés. Donc là aussi, ça complique considérablement même les alternatives. Alors, au niveau des critiques, il y a beaucoup de critiques de psychanalystes sur le sujet néolibéral, hein, sur la violence du sujet néolibéral, les difficultés du sujet néolibéral. Bon, on les connaît, Jean-Pierre Lebrun, Roland Gori, etc. Et critiques de la vie algorithmique, de la prétention de ces big data, de représenter le réel, de tout quantifier, de tout mesurer, de mesurer la vie et de rationaliser la vie grâce à l'algorithme. Donc là, je crois qu'il y a une menace véritablement pour l'humanité aussi, qui est extrêmement importante, d'où la nécessité de penser véritablement les alternatives. Et je dirais, mais bon, là, je m'engage moi, nécessité de se débrancher. Absolument. D'avoir la possibilité de se débrancher. Aujourd'hui, se débrancher, c'est un luxe. Et il faut être vraiment, aveuglé pour penser que les inégalités sociales aujourd'hui se jouent là. Aujourd'hui, ce sont les catégories sociales, sans doute, qui sont les plus fragiles, qui sont les plus soumises. Il n'y a pas la fracture numérique, qui sont les plus soumises à ce type de choses. La fracture numérique, c'est le fait que des catégories sociales aisées peuvent se débrancher. Elle est là, la fracture, alors que d'autres ne peuvent pas se débrancher. Et ça, c'est, je crois que nous aurons aussi à y réfléchir. Alors, au niveau des critiques, et je conclue, là, alors les choses sont très différentes par rapport aux années 60-70, où là, il y avait une critique de la consommation dans ces années 60-70 qui était très théorique et qui était très importante, mais qui n'engageait pas obligatoirement, véritablement, à des alternatives concrètes. Là, ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, c'est que les critiques sont appuyées pour la plupart sur des alternatives concrètes. Alternatives concrètes qui sont conçues de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'attendre d'avoir résolu tous les problèmes pour passer à un autre système de consommation, mais il s'agit de tenter de résoudre les problèmes en initiant d'autres modèles de consommation. Et donc, on a quelque chose qui est plus pragmatique, hein, qui est moins dans l'abstraction, et beaucoup, beaucoup d'alternatives concrètes, avec des paradigmes quand même, des petits paradigmes qui se dessinent autour. Alors, aucun de ces paradigmes, d'ailleurs, ne peut répondre à toutes les questions qui se posent. C'est toutes les discussions qu'il y a sur les communs, effectivement. Ça ressurgit, le sujet des communs, et donc de la propriété. Et donc, les questions d'usage, parce que la question des communs pose la question de l'usage des biens, et pas simplement de la possession. Donc, les communs, toutes les discussions qu'il y a autour du bien vivre, le buen vivir, le bien vivre, les discussions qu'il y a sur la croissance, la critique de la croissance, prospérité sans croissance, décroissance, ville lente, ville en transition, transition énergétique, agroécologie, beaucoup d'alternatives, circuits courts de consommation et de production. Donc, retour des coopératives de consommation. Vraiment un retour des coopératives avec une tentative de sortir cette problématique là des milieux aisés, justement, hein, avec les expériences des supermarchés coopératifs. Il y en a plusieurs. Il va y avoir un très bon film qui va sortir, c'est un documentaire sur les coopératives, l'histoire des coopératives de consommation depuis le 19e siècle. En Angleterre, jusque à ces expériences de supermarchés coopératifs, justement pour sortir cette question-là de l'entre-soi des milieux qui ont déjà les moyens d'accéder à ce type de consommation. Donc, expérience concrète. Voilà, je conclue en rendant un hommage quand même. Bon, d'abord à Debord, je vais lire, puisqu'il y a un film demain soir, je vais lire juste une phrase de Debord. Et à quelqu'un d'autre qu'on a beaucoup oublié, je pense, mais qui, je crois, revient dans les discussions, c'est Pasolini, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les écrits corsaires », où il fait une critique dans les années 60 de la société de consommation qui est absolument terrible. Pour lui, c'est un nouveau fascisme. C'est un nouveau fascisme. Parce que, dit-il, hein, le fascisme, bien entendu, contraignait les corps et les esprits, c'était brutal, évidemment, criminel, brutal, alors que là, c'est un fascisme qui est fondé aussi sur l'adhésion à des modèles qui sont imposés. Et donc, il y a un consentement, Une adhésion à des modèles qui sont imposés et qui sont, comment dire, une adhésion qui est totale, qui est inconditionnée par rapport à des modèles imposés. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne consomme pas, il est suspect. Il est bizarre. Il est un peu traître quand même. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone portable, quelqu'un qui, il est un peu bizarre. Je me souviens de quand les jeunes de, ça y est, j'ai oublié leur nom, je m'en excuse, ceux qui avaient été suspectés d'avoir fait un attentat de Tarnac. Bon, c'était incroyable quand même ce qui était dit dans le tribunal. Ces jeunes étaient bizarres parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas d'ordinateur, ou on n'en voyait pas, ils n'avaient pas grand-chose. Et ça, c'était à charge. C'était à charge. Donc là, il y a une véritable normalisation. Je lis juste la phrase de Guy Debord. La production, 1972, la production de la non-vie a poursuivi de plus en plus vite son processus linéaire et cumulatif, venant de franchir un dernier seuil dans son progrès, elle produit maintenant directement la mort. La société de consommation est une société mortifère. Voilà ce qu'il veut dire. Bon, voilà, je vous remercie. J'ai été un peu longue, je m'en excuse.
Dans la phase débat, questions, n'hésitez pas à intervenir sur tout ce qui a été dit depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Tout ce que tu nous racontes là, c'est faux. On sait ça. Mais enfin, on voit les alternatives quand même. Bon, les gens qui veulent même consommer autrement, c'est-à-dire vivre autrement. Quand je consomme autrement, j'utilise des produits, mais différemment. Je choisis de marcher à pied, je choisis de prendre mon vélo, je choisis de prendre les transports en commun. On voit bon, tous ces groupes, toutes ces alternatives dont tu as parlé, qui laissent déjà poindre le fait que ce système-là, comme disait Marx aussi, mais à une autre échelle, crée à ses propres contradictions. La preuve, on ne serait pas là autrement. Bon, le fait qu'on a déjà, on voit déjà pointer, enfin, c'est associé, que ces valeurs sont mises en cause, le système, il n'est pas cohérent jusqu'au fond, il y a quand même des brèches, des ouvertures, bon, qu'on rencontre un peu partout, qui fait qu'on peut, heureusement, et qui ne sont pas encore intégrés dans le système. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas réussi encore à valoriser, à en faire des branches du, comment ça s'appelle, de sa production. Donc, je crois que ce système, il a son contre, comment s'appelle, son contre-feu, et que bon, nous en sommes la preuve évidente, et puis déjà ici, et puis que dans notre pratique sociale et tout, ces questions qu'on n'avait pas en 70, qu'on était longtemps obnubilés par le marxisme, disons le matérialisme des partis de gauche, parce qu'on n'a pas mal, ça n'a pas, en 68, mais enfin, si tu veux, on ne marchait pas dans la classe ouvrière, c'est-à-dire elle était bien sous la coupe PC-CGT, en gros, et de ces questions, disons qu'on agitait un peu, ça apparaissait très abstrait à l'époque. Le PC nous disait peut-être à juste titre, oui, bah, le luxe, nous, on voudrait bien les voitures, c'est nous qui les produisons, on en veut aussi, quoi. Donc c'est normal que les producteurs y accèdent aussi. Donc il y avait une coupure, c'est critique à cette consommation, c'était le hochet d'un petit peu de gens déjà aisés, qui pouvaient déjà consommer. Et tandis que bon, le gros de la population, il était en demande. C'était encore les HLM, et c'était encore les choses à acquérir. On avait 50 centimes en poche en 68. On n'avait pas les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Et là, je crois que bon, maintenant, c'est vrai que cette critique, maintenant, elle est abordée, enfin, elle est approfondie, mais elle crée, enfin, pour moi, c'est déjà son propre correctif, déjà, et surtout, je le vois, surtout, j'ai vécu en Allemagne, c'est déjà, bon, tout c'est ce qu'on appelle la scène alternative, c'est 20-25% de gens qui vivent déjà autrement, ou en Autriche pratiquement, ou dans les pays scandinaves. Et là, c'est déjà un espoir, pour ça. Je vais l'exprimer.
Voilà, pour aller dans l'autre sens. En tout cas, une question. Là où les libéraux et les sociodémocrates sont probablement lucides, c'est sur le fait que la croissance permet de gérer plus facilement les inégalités sociales en donnant des biens, en redistribuant à minima, voire dans la période de l'après-guerre, en réduisant certaines inégalités. Et donc la grande interrogation qu'on peut avoir, qui laisse inquiet quand on voit les réactions à la situation actuelle, les réactions nationalistes, la grande interrogation qu'on peut avoir, c'est la manière dont on peut porter des formes de distribution, de partage des richesses, mais dans un contexte de restriction des biens marchands. Donc ça suppose sans doute une pédagogie ou des modèles nouveaux à populariser, mais en fait il y a quand même une vraie difficulté à faire partager des choix collectifs sans cette manne redistributrice de la croissance.
Je ne sais pas, je suis moins... Comment dire, j'entends ce que vous dites pour la période 45. Je crois qu'il y a une conscience très forte aujourd'hui qu'on ne peut pas simplement, quand on regarde le gâteau à partager, on ne peut pas seulement regarder sa taille. C'est important de savoir ce qu'il y a dedans. S'il y a du poison dedans, qu'il se le garde. Hein. Donc je crois que c'est impensable, surtout à l'échelle du monde, de séparer ce qui est de l'ordre de la distribution des richesses et ce qui est de l'ordre de qu'est-ce que la richesse. Qu'est-ce que la richesse ? Parce que je suis assez d'accord avec vous qu'il y a eu un consensus, pas avec les sociodémocrates seulement, hein, entre les libéraux et les marxistes, sur la croissance et l'accumulation du capital. Et elle y est encore aujourd'hui en partie. Donc je crois qu'il faut qu'on l'affronte. Il y a consensus. Bon, et bien souvent, la pauvreté a été instrumentalisée pour justifier la croissance. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, hein, quand on discute, par exemple, de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en Amérique latine, etc., etc. Regardez ce qui se passe en Guyane. Tout à l'heure, il a été cité, là, le manifeste des produits de haute nécessité en Guadeloupe. Il est extraordinaire, ce manifeste. Les gens, ils ont assez de dignité, là, pour ne pas se considérer uniquement comme des œsophages et des estomacs, ce que les libéraux voudraient bien qu'ils soient, et donc revendiquer autre chose que des biens de consommation courantes, matérielles. Il y a une revendication de dignité. Et ça, dans beaucoup de pays du Sud, il y a de très fortes revendications de dignité. Et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas, je suis d'accord, hein, aujourd'hui, les différences, les inégalités sociales sont telles que c'est de l'ordre de l'insupportable au premier sens du terme. Mais elles sont telles aussi qu'il est impensable, par rapport à ce que disait le monsieur, et ce n'est pas désirable, de penser l'égalité par une égalisation. L'égalité, ce n'est pas l'égalisation. On ne pourra pas avoir égalité avec égalisation. C'est impossible matériellement. C'est possible pour une petite élite. Fermons l'Europe, mettons-nous bien des barrières très hautes, hein, des murs très hauts pour que personne vienne surtout. Et à nous, entre nous, on peut se partager le gâteau peut-être. Mais il faut mettre des barrières très hautes. Si on pense les questions à un niveau global, c'est absolument impensable. Donc la question, c'est aujourd'hui le contenu de la richesse aussi. Et ce n'est pas un problème de riche, ça. C'est contre cela qu'il faut lutter. On nous a dit ça, hein, aussi bien la droite que la gauche. Ils ont instrumentalisé la pauvreté, et surtout la droite. Ils instrumentalisent la pauvreté pour justifier l'accumulation du capital, c'est pour résoudre la pauvreté. Sauf que dans les pays du Sud aujourd'hui, il y a des expériences alternatives, il y a des revendications qui ne sont pas du tout dans l'idée de nous rattraper. Ils ont compris que ce que nous appelions nous modèle développé, ben, ce n'est pas tellement développé, et qu'ils n'ont pas spécialement envie de ce développement-là, et qu'ils ont envie d'autres manières de s'organiser. Mais ça, pour certains, c'est absolument insupportable. Ils préfèrent parler de répartition des richesses, etc., lutte contre la pauvreté, etc. Je crois qu'il y a quand même des choses qui se sont passées, et notamment dans les pays du Sud. par exemple l'Argentine, en Amérique latine, en Afrique. En Afrique, le continent, par exemple, où l'agroécologie est le plus développé, c'est sans doute l'Afrique. Bien sûr. C'est un pays comme le Burkina Faso, par exemple, où il y a beaucoup d'expérience d'agroécologie. Beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en Europe. Où ça reste encore malheureusement marginal par rapport à l'agriculture intensive, par exemple. Regardez les revendications qu'il y a aujourd'hui en Chine. Il y a énormément de mouvements sociaux en Chine. Des grèves, il y a un article, il y a une page dans Le Monde d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des revendications salariales, mais pas seulement. Pas seulement. Ils ne peuvent plus respirer déjà. Donc il y a une revendication sur « on voudrait pouvoir respirer ». C'est des questions de vie, quasiment. Et pas simplement de pouvoir acheter un réfrigérateur qui fait des glaçons. C'est pas que ça. Ça peut être ça aussi, mais...
Bonsoir. Une bonne nouvelle par rapport à ce qui était dit. J'ai entendu sur France Culture que des leaders syndicaux de Guadeloupe sont allés en Guyane ces jours-ci pour échanger sur leur expérience, peut-être pour accueillir la paire de ministres qui est allée au charbon aujourd'hui. Mais bon, Gilles, tu parlais en introduction, tu donnais quelques chiffres. J'ai pas la donnée exacte, mais il me semble qu'on a à peu près 20 fois plus d'ustensiles de cuisine, d'appareils électroménagers qu'après la guerre. Question, est-ce qu'on est 20 fois plus heureux? Et j'ai pas tout à fait la réponse. Alors, Madame Azan, merci d'être venue. Et je trouve dommage, mais vous y êtes pour rien, qu'il n'y ait pas plus de monde à l'extérieur, dans la rue, etc., à pouvoir rentrer dans la salle. Peut-être que vous n'êtes pas assez popularisé sur TF1, qui fait que les gens ne sont pas au courant que vous êtes là. J'ai envie de donner quelques éléments un peu positifs en complément. Je travaille depuis 5 ans sur le gaspillage alimentaire. Vous parliez de gaspillage et puis le temps passe et vous ne pouvez pas tout aborder. Quand je travaillais sur le gaspillage alimentaire dans des communes urbaines ou rurales, il y a 5 ans, ce n'était pas évident sur le gaspillage en restauration collective. Parce que c'était encore un peu tabou. Ça ne l'est plus. Parce qu'il y a eu des campagnes, parce que le ministère de l'Agriculture a fait un petit peu de boulot là-dessus quand même. Mais ce n'est plus un tabou. Et c'est un atout de travailler là-dessus. J'entendais une députée italienne il y a 10 ans qui disait « Moi, avec mes électrices, électeurs potentiels, je ne leur parle pas de faire des économies. Je leur pose la question, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour réduire les gaspillages au niveau du territoire, au niveau des familles ?» Et ça passe un peu mieux de parler de réduire la part de gaspillage que de faire les économies, parce que c'est sous-entendu comme « il faut serrer encore un peu plus la ceinture ». Et il y avait ce week-end à Poitiers une braderie Emmaüs, 3 jours, qui attirait à peu près 20 000 personnes. Et bien, il y a des étudiants, peut-être des gens qui sont allés faire les emplettes à Emmaüs ce week-end, mais je voyais aussi des gens qui étaient très bien sapés. Et ces personnes-là, je pense qu'il y a 10 ans, elles n'y étaient pas. Parce que c'est pareil, ce n'est plus un tabou de s'habiller avec des vêtements d'occasion qui ont été portés par d'autres. Il y a heureusement une évolution au niveau des mentalités. Mais j'ai compté que sur mes vêtements là ce soir et ma montre, il n'y a que 2 choses que j'ai achetées sur l'ensemble. Donc je suis à peu près à l'aise. J'ai rien volé dans le reste. Je constate que les pubs qu'il y a actuellement sur les voitures, les chiffres sur les grands panneaux publicitaires sont donnés en euros par mois. C'est plus le prix de la bagnole cash, c'est par mois. Et c'est 300 euros par mois la Mini Austin, ça passe peut-être mieux, mais il faut faire une prière pour pas être licencié dans les 4 ans, parce que grosso modo, j'ai l'impression qu'il faut être pendant 4 ans à rembourser la bagnole pour faire le kéké. Et on est quand même ça correspond bien à ce que vous dites sur la notion d'immédiateté, se faire plaisir avec une nouvelle bagnole, mais avec sûrement une part de stress en disant « j'espère que je ne vais pas me faire lourder de ma boîte où je donne le maximum ». Et donc ça, c'est un peu au niveau individuel. Et au niveau collectif, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'il me semble qu'il y a une corrélation. Alors, je ne lis pas beaucoup, j'écoute un peu France Culture et Inter, mais ça a peut-être été déjà remarqué. Mais la dette de l'État français est à peu près de 2200 milliards d'euros. C'est ça ? Je crois. Hein ? D'accord. Et des hommes politiques ont l'air de dire bah, c'est normal que le pays soit endetté. Je lisais la semaine dernière un article sur Poitiers où l'équipe municipale et le maire, qui est aussi député, entre autres, disaient mais l'endettement de Poitiers est inférieur à la moyenne. Donc ça va. C'est complètement dans la tête de beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques maintenant qu'on doit être endetté pour un territoire. Et je fais le parallèle avec une sorte de dette qu'on a, c'est que vers le 15-20 août, de manière un peu définie, avec des savants calculs, on a consommé au niveau planétaire ce que la planète peut fournir comme ressources au rythme de la nature. Et je trouve qu'il y a une corrélation assez peut-être intéressante de creuser entre cette mentalité de consommer au-delà de nos moyens en empruntant pour une collectivité territoriale, pour un pays, c'est normal d'avoir des dettes, d'être endetté, et de vivre à crédit sur le dos de la nature et de la planète. Est-ce qu'il y a des études un peu là-dessus ou est-ce que c'est novateur ? Je vous donnerai un nom pour éventuellement...
Oui, bonsoir. En écoutant tout ce qui s'est dit, vous parliez tout à l'heure de la difficulté des classes en réalité les plus précaires, les plus fragiles de se débrancher. En gros, vous parlez de crise anthropologique. Du coup, quand j'entends... On parle par ailleurs de tout ce qui se passe ailleurs. Par exemple au Chiapas, par exemple, je ne sais pas quels peuvent être les exemples. Et moi, la question que je me pose, c'est comment toucher les gens ? C'est-à-dire, quelles sont les liaisons possibles ? Parce que là, ce que j'ai entendu à droite et à gauche, c'est quand même, comment dire, on a des réflexions faciles, dans le sens où, en fait, on a des réflexions de gens riches. Oui, c'est vrai qu'il y a des réflexions sur la consommation. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à s'interroger et à changer. Certes, mais le capitalisme sait très bien intégrer tout ça. Donc la véritable question que je me pose, c'est quel est le ressort qui pourrait faire que de cette population qui est devenue extrêmement fragile et extrêmement dépendante, des réseaux sociaux, c'est-à-dire qui ne se pensent plus en tant qu'acteurs politiques, en fait. Quelles sont les liaisons possibles avec d'autres alternatives qui sont radicalement autres ?
Une question pour compléter, moi, en contre-pied, le rôle des réseaux sociaux dans la révolution, dans les révolutions arabes, notamment tunisiennes. Est-ce qu'il faut y voir seulement ce phénomène d'isolement ensemble quand tu es ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un chemin pour être ensemble, justement, ces peuples qui n'arrivent pas à se relier sous des dictatures ?
On fait peut-être un tour de réponse d'abord, et on prend les questions en bas, parce que là, il y a quand même pas mal.
J'ai pu.
Non ?
Bon, il y avait des réflexions aussi, il n'y a pas que des questions, hein, c'était des réflexions. Je voudrais répondre sur le, quand même, parce que c'est un peu latent dans tout ce qui se dit, sur le pessimisme. Moi, je n'ai pas traité les alternatives. Bon, c'était pas possible, hein, puisqu'il y a une conférence demain sur les alternatives. En revanche, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on est face à des alternatives que je pense systémiques. Que je pense vraiment systémique, je vais en donner une ou deux. Mais ce que je voudrais dire sur le pessimisme, c'est que pour moi, je sors d'une grande époque pessimiste. L'époque où on ne disait rien, où tous les problèmes étaient sous le tapis. Certes, ce n'est pas très drôle ce qu'on se dit, mais il vaut mieux le dire. Il y a eu toute une période où tout allait bien, Sur tout ça, on n'en parle pas. La consommation, c'est génial, ça fait le bonheur. C'est les droits. C'est on est arrivé à un système très bien. Il n'y a pas de problème écologique. Bon, bref, là, aujourd'hui, la réalité nous claque à la figure quand même. Une réalité qui est dure. Qui est dure. Bon. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a des sujets politiques posés qui n'étaient pas posés il y a 30 ans. Par exemple, qu'est-ce qu'on consomme ? Pourquoi on le consomme, dans quelle quantité et comment je fabrique ce que je consomme, c'est le sujet politique majeur. C'est le sujet politique majeur. Comment nous organise-t-on? Comment on s'organise pour vivre ensemble? C'est ça la politique. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on décide de produire? Et ça, c'est le sujet politique. Tout le reste, c'est de la gestion. Hein. Alors, la gestion, c'est très important. Mais le sujet politique majeur a été évacué pendant des années au nom de la croissance. Il y avait croissance infinie, on n'a pas à se poser ces questions-là. On se posait des questions de répartition de richesse, éventuellement c'est tout, sans s'interroger sur la richesse. Et c'est parce qu'on ne s'est pas interrogé sur la richesse qu'aujourd'hui, on est dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que même les 30 Glorieuses, dans lesquelles on a conquis des droits, dans lesquelles il y a eu des... Ça concernait une partie de l'humanité. Et ça n'a été possible que parce que ça concernait qu'une partie de l'humanité. On le voit aujourd'hui, ce modèle n'est pas généralisable. Bon, il est bon pour nous éventuellement, mais il n'est pas généralisable. Bon, donc ça, c'est bien que ça sorte. Et pour moi, le pessimisme, c'est de ne pas regarder la réalité. Aujourd'hui, ce qui est requis pour nous, c'est un effort de lucidité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas se raconter des jolies histoires. C'est un effort de lucidité. Bon, et quand je vous dis le climat, le changement climatique, on ne l'arrêtera pas. Mais évidemment, ce n'est pas optimiste. Et si je vous dis qu'il y a 4 millions de chômeurs, ben ce n'est pas drôle. Et si je vous dis qu'il y a 4 millions, en fait, ce n'est pas 4, c'est 6, sans doute, c'est encore moins drôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Non, non, ça va, tout va bien, 500 000 chômeurs, on va y arriver, il y a des expériences. Non, c'est grave. Les inégalités explosent au niveau international. Pourquoi ça, on peut le dire, et ce n'est pas pessimiste? Et pourquoi, dès qu'on attaque d'autres sujets, ça devient pessimiste? C'est parce qu'il y a des blocages énormes, malgré tout, que nous avons, je m'y mets, dans des sujets tels que la consommation, les questions de l'écologie, etc., où là, tout à coup, dire les choses, c'est pessimiste. Si je vous dis qu'il y a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je suis pessimiste. Si je vous dis, au niveau du réchauffement climatique, c'est très grave ce qui se passe, on ne pourra pas l'arrêter, on va me dire, oh là là, elle est pessimiste. Voilà. Donc il y a confrontation au réel. Et précisément aujourd'hui, avec tout le système que nous avons, nous vivons dans une fiction, dans un monde fictionnel, avec une création de fiction. Donc le fait de retrouver le réel, et pour moi la crise écologique, elle est importante pour ça. C'est pas pour la défense de telle espèce, même si c'est important. C'est qu'elle nous oblige à nous confronter au réel, à notre réalité géophysique aussi. Elle nous y oblige, et pas à rester dans un monde purement fictionnel. Et une fois qu'on arrive à se poser les bonnes questions, moi je fais confiance à l'humanité pour trouver les réponses, mais encore faut-il se poser les bonnes questions. Et pendant longtemps, ce n'est pas poser les bonnes questions. Voilà pourquoi je répondais tout à l'heure, sur la répartition de la richesse. Oui, il faut la répartition, mais on ne pourra pas répartir la richesse telle qu'elle est. Telle qu'elle est produite aujourd'hui, son contenu, on ne peut pas le répartir. Et même, ce n'est pas souhaitable de le répartir. Est-ce que tout le monde veut un 4x4 aujourd'hui? Est-ce que c'est le souhait de tout le monde parce que certains en ont un? Est-ce que tout le monde veut une piscine californienne parce que certains en ont? Non. On doit même dire, et c'est là que ce n'est pas récupérable par le capitalisme, là où on n'est pas récupérable, c'est le jour où on dit la piscine californienne, on n'en veut pas. Le 4x4, on n'en veut pas. Nous, on veut des transports collectifs. Gratuit si possible, public. Ça, c'est pas tellement récupérable. Nous, ce qu'on veut, c'est diminuer la consommation d'énergie. Alors que toutes les entreprises capitalistes sont là pour vendre de l'énergie. Et donc pour accroître la consommation d'énergie, y compris les publics. Donc ce qu'on veut, c'est diminuer la consommation d'énergie. Ça, c'est pas tellement récupérable. Dès que vous commencez à dire, nous, on veut diminuer la consommation, on veut se réorganiser, on veut des circuits courts, on veut diminuer les transports. Évidemment, ça suppose toute une réorganisation de la société parce que c'est de l'emploi à la clé. Il faut, évidemment, c'est ce qu'on appelle une transition. Hein, si je supprime de l'emploi dans les transports lointains, etc., il va falloir que je crée de l'emploi ailleurs, ou que je diminue le temps de travail, ou que je réimagine une autre société. Mais c'est ça la question politique. C'est pas uniquement distribuer 30 euros de plus à tout le monde. Et quand vous disiez en 68, on n'était pas... Il faut quand même se rappeler des choses. On a raté sans doute des occasions, ou des occasions ont été ratées. Quand, après les accords de Grenelle, quand les délégués syndicaux sont revenus dans les entreprises en disant il faut reprendre le travail parce qu'on a gagné 30 euros, enfin 30 francs à l'époque, ils se sont fait siffler. Les gens ne voulaient pas obligatoirement reprendre le travail parce que le sujet, c'était pas uniquement avoir un peu plus d'argent. C'était pas que ça le sujet. C'était retrouver de la dignité, retrouver du pouvoir, retrouver dans la reconnaissance du travail, etc., etc. Et c'est pas uniquement de la répartition de la richesse. Même si je suis d'accord, hein, aujourd'hui rien ne sera possible si on n'envisage pas un revenu maximum, enfin, c'est pas véritablement une répartition de richesse. Bon, voilà, sur le pessimisme. Le pessimisme, pour moi, c'est le manque de lucidité. C'est quand on n'est pas lucide ou qu'on refuse de poser les questions. Bon, là, il y a de quoi être très pessimiste, effectivement. Ensuite, sur la voiture, je ne sais plus qui en parlait, mais ça me faisait penser à Ivan Illich, qui, dans son livre, je pense que c'est dans La convivialité, avait fait un calcul du temps que nous passons pour payer la voiture. C'est-à-dire que nous travaillons pour pouvoir avoir un salaire qui nous permet de payer les annuités pour une voiture, qui nous permet d'aller travailler. Et si on calcule donc le remboursement de la voiture, plus l'entretien de la voiture chez le garagiste, plus l'essence qu'on met, etc. Et si on convertit tout cela en temps socialement nécessaire, il en déduisait que la voiture n'était pas plus rapide que le vélo. Si tout le temps que nous passons pour accéder à la voiture, nous le passions à circuler en vélo, nous irions aussi loin. Mais c'est possible que j'ai. Mais c'est la contre-productivité, justement.
Ça dépend ce qu'on intègre dedans. Si on va plus loin ça et qu'on intègre les externalités en termes de santé, d'accident, d'arbre, etc.,
voilà.
On peut arriver à la vitesse de la marche.
Donc voilà. Alors évidemment, cet exemple, il n'a de sens que pour nous obliger à tenter de modifier notre regard sur les choses. Et dernier point, je voudrais reparler de la question de l'abondance parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Et dans mes conférences, je prends souvent cet exemple, l'exemple de ce qui s'est passé en France avec les gaz de schiste. On a dit aux gens, vous avez sous vos pieds une richesse extraordinaire, abondante, dans certaines régions. Il suffit qu'on fasse et vous allez recevoir des royalties, puisque ce sera sur votre terrain, etc. Et là, horreur pour le capitalisme. Les gens ont dit, on ne veut pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas rationnel. Hein, vous avez une richesse là, enfouie sous la terre, qui ne fait rien, qui dort, qui est là uniquement pour nous, pour que nous allions l'extraire, et vous refusez de l'extraire, alors que ça va vous rapporter des euros, des dollars, etc. Ben oui, on refuse. Et en plus, on demande qu'il y ait une loi qui l'interdise sur tout le territoire et si possible en Europe. Eh bien là, cette lutte, elle a témoigné d'un véritable changement. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a 30 ans, 40 ans, si ça aurait pu se faire de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Et ce n'était pas uniquement. Il y a des choses plus importantes. Pourquoi les gens ont refusé? Parce qu'ils ont leur terrain, il y a du gaz de schiste sur le terrain. Très bien. On vend le terrain ou on garde le terrain et on perçoit les royalties. C'est un peu idiot de refuser quand même. Bon, certes, il faut accepter le puits de gaz, la perforation hydraulique, les nappes phréatiques qui sont sollicitées pour pouvoir faire tout ça, le produit chimique qu'on met pour pouvoir faire exploser la roche, etc., etc. Les risques, tout ce qu'on veut. Mais ceci a primé par rapport à la perspective. Bon. Si bien que cette idée de rareté, d'abondance, bon, aujourd'hui, je crois qu'elle est en train de se renverser. Pendant longtemps, on disait du pétrole, on n'en a pas assez, on ne va pas en avoir assez. Mais on en a trop. Il y en a trop. Parce que si on brûle tout le pétrole que nous connaissons aujourd'hui, la planète explose. C'est en ce sens qu'on vit une période importante parce que c'est nos catégories de pensée qui sont aussi perturbées. Moi-même, j'ai dit pendant longtemps, du pétrole, il va y avoir une pénurie, il n'y en aura pas assez, et le prix du pétrole va augmenter, etc. Non, il y en a trop de pétrole. Il faut le laisser sous terre. C'était impensable il y a 20 ans, ça. Et donc, quand je dis ça, je ne suis pas pessimiste, je suis très heureuse qu'enfin, nous ayons compris ça, nous ne l'avions pas compris il y a 20 ans. Nous avons compris ça maintenant, ça me rassure plutôt. Parce qu'en comprenant ça, j'évite sans doute, ou j'espère pouvoir éviter, une catastrophe très grave. Le pessimisme pour moi, c'est de ne pas voir ça, ou de le cacher. Parce que c'est se priver des outils pour pouvoir lutter. Donc je pense qu'il y a des changements dans la consommation, mais il y a des changements dans le regard sur les choses aussi. Qui s'opère. Dans beaucoup de pays du Sud, les luttes majeures aujourd'hui, c'est sur les grands barrages, refus des grands barrages. On leur promet l'électricité, refus des... Au Brésil, c'est absolument énorme. Beaucoup de manifestations qui ont eu lieu sont parties aussi des luttes contre les grands barrages, toute une vallée qui est complètement inondée. En Bolivie, c'est la même chose aujourd'hui. Et il y a une résistance de la population très forte par rapport aux grands barrages. N'allons pas dans les pays du Sud. En Italie, hein, toute la vallée hein, de autour de Turin, sur le train, la vallée de Suse, voilà. Là, c'est toute une population qui résiste. Ce n'est pas des riches. Hein. C'est une population qui résiste, qui ne veut pas de ce tunnel, on leur promet pourtant bons et merveilles, tous ces camions qui vont passer, ça va laisser de l'argent, etc. Ils disent non, on n'en veut pas. Bon, ça, pour moi, c'est des résistances systémiques. Ce n'est pas uniquement demander 30 euros de plus, parce que 30 euros de plus, le capitalisme, il peut le faire.
On le disait en 74, je ne sais pas, tu as fait la campagne du Mont, 74, bon, après il y a eu 79, on a fait Brice Lalonde, c'était déjà le même discours, c'est pas trop, moi je ne suis pas pessimiste, mais on a avancé énormément depuis.
Oui, vers le précipice, oui.
Alors j'avais deux sujets en tête, enfin qui ont rien à voir peut-être. D'abord, tout à l'heure vous parliez, enfin vous avez déjà parlé des pays du Sud et de la Guyane, mais je pensais à Mayotte où il n'y a pas d'infrastructure, même pour transporter l'eau, il n'y a pas de trottoir, etc. Et la consommation explose avec des canettes, avec des produits importés. Des pays asiatiques, enfin, etc. Donc, quel modèle de développement il faudrait penser pour inventer tout de suite, qui ne passe pas, eux, par toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et puis l'autre sujet, c'était, je pensais à la consommation d'armes. Le cercle infernal de consommation, quel rôle il a dans l'enchaînement des conflits armés? Enfin, c'est pas que ça, mais il y a sûrement un poids aussi des productions d'armes qui doivent être consommées, donc, etc.
Je voulais faire une remarque par rapport à ce qui s'est passé autour de 68, c'est que ça a été récupéré. Enfin, c'est une critique du capitalisme. Mais là où le capitalisme n'a pas récupéré que des idées, il a aussi récupéré des gens. Il y a eu un certain nombre de renégats qui ont eu un rôle particulièrement néfaste. Donc il faut leur rendre cet honneur et qu'on ne les oublie pas pour les siècles et des siècles. Et puis sur les courants marxistes, je crois qu'il y avait parmi les courants marxistes, moi j'étais dans les années 70 à la Ligue communiste révolutionnaire, on n'était pas très écologiste, mais je crois qu'on était, il me semble comme courant, à partir du moment où on était minoritaire, qu'on était minorisé par le courant majoritaire du Parti communiste, et qu'on portait une idée de l'internationalisme, c'était quand même une solidarité avec des peuples qui ne pouvaient pas avoir ce mode de consommation-là. Et si on considérait que c'était, on avait une dénonciation à faire de notre propre impérialisme, il me semble qu'on était ouvert par rapport à une critique qui n'existait pas encore, mais en tout cas, il y avait une ouverture possible, quoi. Voilà. Et donc, par rapport à la question du pessimisme, en fait, le pessimisme, c'est de dire, c'est si on ne pouvait pas changer les choses, mais si on disait comme en 68 que la révolution est possible, une révolution est possible, bon, ça ouvre, on ne sait pas comment, mais ça ouvre l'espace des possibles. Parce que dans toutes les descriptions qui sont faites, c'est à la fois que ça ne peut pas durer comme ça, et aussi que par rapport à toutes les possibilités avec Internet, les échanges, c'est quand même du point de vue des conditions. Enfin, moi, les trucs qu'on disait comme possibilité d'autogestion, c'est que ça a été multiplié par 100 et on ne les utilise pas, quoi. On peut faire des tracts extrêmement vite, on peut faire des échanges entre personnes extrêmement rapidement et décidés, et puis on l'utilise assez peu. Donc la question est par rapport à ça. Et par rapport à la question du sujet. Du néo-capitalisme, sur la question de l'identité flottante, est-ce que on ne pourrait pas dire que c'est en même temps c'est quelque chose de totalement impossible que ça dure comme ça, comme proposition humaine, il y a quelque chose d'un peu. Enfin, par rapport à ce qu'on dit Dardot et Laval sur là-dessus, quelque chose à la fois totalitaire, mais impossible. Quoi. Donc, est-ce que c'est pas non plus. Enfin, là, pour le coup, vraiment une contradiction insoluble du capitalisme, de proposer à un être humain sous cette forme-là, absolument un espèce de barbare, sans cœur. Et sans avenir.
Oui, bonsoir. C'est une question de catégorie de pensée. Oui, je pense en effet qu'il faut complètement revoir son imaginaire. Il faut mettre à zéro. Toutes nos certitudes. Et bon, je suis très contente de savoir qu'en Guadeloupe, on pense aujourd'hui comme on pensait à Florence avant 1300, puisque Dante disait aux envieux, aux gens qui avaient envie de consommer tout ça, il leur disait « Mettez vos désirs dans ce qui s'accroît dans le partage. » Je pense qu'il rejoint vraiment la dimension poétique voulue par les Guadeloupéens. Non, les
Guadeloupéens, oui.
Les Guadeloupéens, je disais bien. Oui, parce que il y a en effet les valeurs, enfin les biens, comme on dit, matériels qui diminuent dans le partage. Et puis, il y a tout ce qui est poétique, musique, imaginaire, bien-être, joie, qui au contraire augmente, plus on partage et plus chacun est riche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on a besoin de très peu en réalité. Si on s'attache aux besoins, plus on les réduit et plus on est heureux. Mais il faut pas aller au-dessous d'un certain seuil, c'est évident. Mais il y a quand même une grande jouissance à voir qu'on a besoin de peu. Vouloir beaucoup, ça veut dire faire un saut dans ce que vous avez appelé justement les solutions fictionnelles. Bon, alors parmi ces solutions fictionnelles, il y a le nucléaire, qui est complètement une fiction. Parce que c'est complètement imaginaire de penser qu'on va pouvoir faire marcher une centrale nucléaire. On voit bien que maintenant, ça ne marche plus. Et il faut avoir le courage d'avoir peur, il faut avoir le courage de s'organiser contre. Et ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut dire non. Parce que chaque jour nous expose à une catastrophe. Westinghouse, qui a été leader dans la construction des centrales, est en train de faire faillite. Ben, c'est une bonne nouvelle. Areva fait faillite. Bon, il faudrait peut-être que nous Bon, plus que du côté du capitalisme, ça se casse la gueule, mais du côté de la citoyenneté, ça ne bouge pas beaucoup. Donc il faudrait, les Amis de la Terre, Poitou, proposent une lettre à la préfecture pour les mettre en demeure d'arrêter ce qui met en danger la santé et la vie d'autrui. Je vous enverrai, si vous me laissez votre mail, je vous enverrai le modèle de cette lettre.
Il y avait une question de vous. Est-ce qu'il y a encore une question après ? Est-ce qu'il faut absolument qu'on finisse à 45 ? Donc on fait un dernier tour, on prend les deux questions qui restent là et je ne vais vous répondre.
Alors, déjà, merci pour votre intervention. Vous avez dit, celui qui ne consomme pas, il est suspect. Et j'aimerais avoir votre regard sur justement la répression de la consommation, peut-être plutôt la répression de la non-consommation. Quand on ne veut pas participer au consumérisme et que pourtant cette non-participation est récupérée par le capitalisme lui-même. Et j'avais en tête un exemple un peu... Je ne sais pas trop où je veux aller avec, mais la marque de luxe, qui s'appelle Vêtements et qui fait des vêtements tout à fait basiques comme c'est pas permis, et pourtant c'est une marque de luxe et on récupère, enfin je sais pas où je veux aller avec ça.
Merci. Donc il reste une question là-bas.
Ouais, bonsoir. Je suis pas sûre de très bien formuler ma question, ma remarque. J'ai l'impression un peu d'un hiatus, en fait, entre les interventions de la journée et ce soir. Alors, ça va valoir... Enfin, ça rejoint peut-être la dichotomie entre optimisme et pessimisme. Alors, je suis peut-être très pessimiste. Mais... J'entends tout à fait et je souscris à tout ce qui est de l'ordre de l'alternative, de toutes ces expérimentations qui existent en France et par-delà les frontières françaises et dans le monde, et qui sont ces expérimentations citoyennes qui sont importantes et qu'il faut valoriser. Et en même temps, j'ai l'impression que les puissants continuent droit sur le Titanic, en quelque sorte, et c'est ce qu'on a vu ce matin avec les traités du TAFTA, du CETA et tous les autres traités, ce qu'on peut voir avec Trump, parce qu'il y a peut-être plus assez, enfin il y a peut-être trop de pétrole, mais en même temps Trump il va toujours dans l'Alaska chercher du pétrole. Donc cet écart en fait entre effectivement une kyrielle d'expérimentation, de tentatives de faire autrement, et en même temps des puissants, des dominants qui continue et qui, en plus, en quelque sorte, s'appuie sur cet appel à la responsabilité individuelle, à consommer autrement, à aller, comment dire, à récupérer, aller aux braderies Emmaüs ou à récupérer les déchets, à faire quelque chose d'une deuxième vie des objets. Parce que finalement, c'est aussi un marché. Vous en parliez tout à l'heure, les déchets sont devenus un marché, mais ces déchets-là aussi sont devenus un marché. Donc comment le capitalisme aussi se régénère? Vous avez évoqué Moltanski et Chiapello. C'est peut-être une part de pessimisme, mais en tout cas, et votre discours d'optimisme est très important, et je vous en remercie, parce qu'effectivement, en termes de citoyenneté, de militantisme, il est porteur, mais malgré tout, moi je ne peux que constater ce fossé, ce hiatus, ce décalage entre des pratiques citoyennes, isolées quand même malgré tout, assez marginales à vrai dire quand même, malgré tout, et puis la marche du monde et du capitalisme.
Ça va dans le même sens que ce que disait Hélène, et ça va rejoindre aussi la question qui avait été posée derrière moi. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que la question qui manque pas, là, qu'on se pose pas, c'est celle de l'autogouvernement? Et vous avez parlé du Chiapas. Moi, ça résonne. Je veux dire, à un moment donné, effectivement, si on veut que toutes ces initiatives soient pas juste des initiatives qui sont immédiatement récupérées et qui, effectivement, voilà, on n'amène pas à grand chose. Est-ce qu'en ce moment, on ne devrait pas se poser tous la question de l'autogouvernement?
C'est-à-dire de l'autogouvernement.
Je donne la parole pour conclure à Geneviève. En gros, on a encore 5 minutes.
Bon, j'essaie de faire une synthèse. Bon, il me semble que j'entends ce qui est dit et qu'on devrait, me semble-t-il, faire preuve d'un peu plus de bienveillance à notre égard. Je nous trouve très sévères par rapport à nous-mêmes et en général très sévères. On est dans un système qui depuis 40 ans nous dit qu'il n'y a pas d'alternative possible. Je pense qu'on est arrivé à déconstruire ça. On l'a déconstruit. Ça veut dire que le néolibéralisme, il n'est pas triomphant comme il était dans les années 80. Où là, il y avait toute une partie de la gauche, y compris un peu radicale et tout, qui, ma foi, ne disait plus rien. Je pense qu'on a quand même déconstruit le fait, l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, ce n'est pas suffisant. Et je pense aux techniques qu'on a pour la démocratie, pour l'autogouvernement, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème de technique. Les Grecs, ils avaient zéro technique, ils fonctionnaient avec la démocratie directe. Donc c'est vraiment là l'engagement politique, c'est se retrouver comme personne politique. Et là, bon, je ne l'ai pas assez dit, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que cette individualisation de la consommation, c'est terrible, parce que ça tue l'individu justement, et ça tue l'individu, la capacité des individus à penser, à réfléchir, etc. Et donc ça tue le sujet politique, je crois que cette hyper-consommation, qui est sans doute pas notre fait ici, mais l'hyperconsommation de certaines catégories sociales tue les sujets, ont tendance à tuer les sujets politiques et à éloigner les possibilités d'autogouvernement. Ça, j'aurais dû dire ça peut-être. C'est par là aussi qu'on doit lutter contre cette hyperconsommation. Bon, voilà ce que je voudrais dire. Donc sur les techniques de l'autogestion, encore une fois, oui, on a les techniques. Ceux qui ont inventé les micros Apple, etc., les micro-ordinateurs, ils pensaient aussi l'autogestion, etc. C'était les premiers pionniers en Californie, etc. Bon, ça a donné Apple. Et c'est vrai que c'est... Je crois que ça ne relève pas de la technique. Alors, la technique peut nous aider, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais s'il n'y a pas, à un moment donné, le surgissement d'un être politique, de sujets politiques, on aura beau avoir toutes les techniques les plus sophistiquées. Elles nous domineront, ces techniques. Il faut que nous soyons des sujets politiques pour que nous puissions utiliser ces techniques si elles sont utilisables. Après, oui, bien sûr qu'il y a la menace des puissants. Les puissants, ils sont toujours là. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est des questions de rapport de force, mais on n'a pas le choix. Et je dirais, bon, c'est le titre de mon livre, mais pour nous qui sommes dans la résistance, moi je pense aussi la nécessité de la désobéissance aujourd'hui, absolue. On est en état de légitime défense quasiment, parce que là, c'est plus uniquement un problème d'inégalité que nous vivons. Il y a un problème de pérennité de l'espèce humaine sur la Terre. Que certains intérêts des puissants aujourd'hui remettent en cause éventuellement la possibilité d'une véritable humanité sur Terre. Ça, c'est quand même inouï, c'est une question nouvelle. Donc là, on a des devoirs, y compris de désobéir. Des devoirs absolus, je pense, de désobéir, parce qu'il y a une menace, il y a une menace suprême. Bon, il y a les puissants, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons demeurer... des humains avec toute notre liberté, le libre arbitre, tout ce qui constitue ce qu'on a appelé l'humanité. Donc, il y a une injonction de résistance, de désobéissance, de construction d'alternatives, etc. Et après, je pense que l'histoire, elle ne procède pas par ajout de toutes ces petites initiatives. Elle n'est pas prévisible. Elle est très largement imprévisible. Bien souvent, des grands mouvements, des grandes situations sont venus à des moments qu'on attendait, pas du tout. Sont partis d'endroits qu'on attendait, pas du tout non plus. Il ne s'agit pas d'ajouter, de se dire on va être plus fort en ajoutant toutes nos initiatives. Non, je crois que ça ne passera pas comme ça. Je suis dubitative sur l'idée de convergence des luttes. Je suis très dubitative. Là où je ne suis pas dubitative, c'est sur l'idée de comment les luttes s'enrichissent les unes les autres et nous permettent d'être plus incisifs dans ce que nous demandons. Mais convergence des luttes, croire que parce qu'on va être 1+1+1, on va être plus fort, je ne suis pas certaine. En revanche, on apprend des différentes luttes et on enrichit nos luttes. Et je pense qu'à un moment, il pourra y avoir des basculements qui partent de petites choses et qui peuvent, c'est le battement de l'aile de papillon. Parce qu'on est dans un monde hyper complexe. Et qu'il peut y avoir une transformation à un moment donné, à un endroit, qui engendre des effets, avec des boucles de rétroaction, tout ce qu'on veut, extrêmement importants, non prévisibles. Il faut qu'on sache cela aussi. Donc, c'est pas rassurant, parce qu'on aimerait savoir qu'en 2022, ça y est, là, pour la présidence de la République, on va y arriver. Non. Bon, on aimerait avoir des échéances, mais on ne les a pas, ces échéances. Et pourtant, quand vous disiez aussi que c'est anecdotique, que c'est des petites choses, moi, je ne crois pas. Bon, oui, ce n'est pas très important. Il commence à y avoir des expériences quand même qui atteignent des... qui ont une échelle qui n'est pas de l'ordre de l'anecdotique. Bon, et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on est convaincu, par exemple, de la transition énergétique, de la nécessaire transition dans l'agriculture, etc., de la consommation, bon, eh bien, on n'a pas le choix. Et je pense que les puissants ne sont pas si puissants, voilà. Il y a une fragilité aussi, une fragilité énorme. Regardez 2008, quand même, les subprimes, quand même, il y a des banques qui ont fait faillite, c'est pas des petites banques locales qui font de la microfinance, hein. Absolument. Oui. Mais ça veut dire un effondrement financier est possible. Hein. C'est pas obligatoire. C'est pour le meilleur et c'est peut-être pour le pire. Mais il est possible l'effondrement financier. Aujourd'hui, j'arrête après ça. Mais si je prends les rapports de l'ONU aujourd'hui, de la FAO, etc., sur l'agriculture, tous les rapports vont dans le sens pour dire l'agriculture productiviste ne peut pas nourrir la population. Tous. Mais d'où ça vient, ça? Ça ne vient pas de Monsanto. Ça vient d'où? Ça vient de mouvements sociaux, d'experts, de scientifiques qui ont travaillé aussi avec les mouvements sociaux. Ça vient de toute une expérience accumulée qui fait qu'aujourd'hui, on considère l'agriculture productiviste comme archaïque. Le modernisme aujourd'hui, c'est l'agroforesterie, c'est l'agroécologie, c'est les circuits courts. C'est l'agriculture moderne qui restitue les sols, qui refait les sols. C'est une agriculture créative qui crée. L'autre, elle est clairement destructive. Disons-le haut et fort, ça. Sans se dire on est petit, tout ça, non. Eux, c'est la mort, nous, c'est la vie. C'est pas pareil. Donc, je sais pas où est la fragilité. Ils ont une très grande capacité à détruire, ça c'est sûr. Le capitalisme est devenu un truc de destruction massive. Ce n'est pas l'accumulation de forces productives, c'est l'accumulation de forces destructives aujourd'hui, le capitalisme. Avec une accumulation de déchets absolument délirante, des gaspillages fous, c'est un système parfaitement irrationnel. Disons-le, au lieu de dire on est faible, on n'y arrive pas, etc. C'est notre propre dignité aussi. Je crois que c'est... Il me semble que ça, c'est des choses qui sortent. L'autre jour, il y a eu ce rapport de l'ONU qui est incroyable sur l'agriculture. Incroyable. Monsanto, ils ne sont pas si fiers que ça. Ils ont été touchés, Monsanto, par ce qu'on a fait. Monsanto, ils se sont retirés de l'Europe quand même pendant un temps. On n'a pas d'OGM en Europe, ou pas trop. Alors on en importe. Enfin, le problème n'est pas réglé. On n'a pas de gaz de schiste en Europe pour l'instant. Le problème n'est pas réglé. Il va se reposer peut-être en France très vite. Bon, Pologne, oui. En Pologne, oui. Ouais. Et ce sera massif. Mais bon, voilà. Donc je pense que. Il me semble aussi qu'on est dans une culture du, comment dire, un peu culture du ressentiment et de la déploration. Soyons bienveillants aussi par rapport à ce que nous faisons. Imaginons le monde si nous n'étions pas là, s'il n'y avait pas ces agora, s'il n'y avait pas des gens qui luttaient, s'il n'y avait pas des expériences qui étaient menées, où serait le monde aujourd'hui ? Donc c'est ça notre capacité créatrice quand même. Et c'est une entreprise de mort, mortifère, que nous avons. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas pour le capitalisme. Mais là, on est passé quand même à un système qui, maintenant, est délibérément mortifère. Voilà, je crois que c'est... Non, je voulais dire juste une chose quand même, encore. Dernier truc. Voilà, c'était sur les sociétés traditionnelles, les sociétés du Sud. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup, pas mal d'anthropologie économique, et il y a un livre que je donnais toujours aux étudiants, c'était le livre obligatoire, c'est un livre d'un anthropologue qui s'appelle Marshall Salins. Marshall Salins, donc, c'est un anthropologue, et qui a écrit un livre, Société primitive, société d'abondance. Âge de pierre, âge d'abondance. Il développe dans ce livre que les sociétés traditionnelles étaient des sociétés d'abondance parce que tous les besoins étaient satisfaits. C'était des sociétés qui, volontairement, autogouvernement, limitaient les besoins. Dans des sociétés qui savent s'auto-limiter, les besoins sont satisfaits. Et donc, quand les besoins sont satisfaits, c'est l'abondance. Alors que dans nos sociétés, il dit, on est des sociétés de rareté, dans lesquelles les besoins ne sont jamais satisfaits parce que, comme ils sont décrétés illimités, les besoins, ils ne peuvent jamais être satisfaits. Et donc, nous sommes toujours en prise avec la rareté. Et toujours dans la frustration, parce que nous avons quelque chose, mais nous n'avons pas l'autre chose qui existe. Et donc, société, âge de pierre, âge d'abondance, hein, et notre âge, c'est l'âge de la pénurie, l'âge de la rareté, parce que nos besoins ne sont jamais satisfaits, parce qu'ils sont illimités. Donc, c'est un appel aussi à l'auto-limitation. Et l'autolimitation, bon là ça c'est Castoriadis. L'autolimitation c'est la base de la politique, c'est la base de la démocratie. Une société qui ne sait pas s'autolimiter, c'est une société qui ne peut pas être gérée de manière démocratique, parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, et c'est donc le peuple qui institue les normes et les limites dans lesquelles, à l'intérieur desquelles il entend vivre. C'est pas l'illimite. L'illimite, on n'a plus besoin de politique, on laisse faire. C'est le progrès de l'histoire avec un grand H qui va toute seule vers le progrès. Ben, il n'y a plus rien à faire, il y a à attendre, à se laisser porter par le progrès de l'histoire. C'est ce qu'on a cru pendant un siècle. Voilà.
Donc, merci à tous. En guise de conclusion, je rappellerai Gramsci, il faut être capable de lier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Et donc demain matin, ça commencera par l'optimisme de la volonté avec agriculture et circuit court.
Ouais, très bien.
Voilà. De la soirée. Je vous remercie à tous et vous remercie.